Le fait que, par exemple, Daft Punk ou Drake font appel à moi, je parle que des deux noms les plus big pour avoir de l'effet. Mais en général, si les gens dans la pop, dans le rap, dans l'électro font appel à moi pour des collaborations, c'est souvent parce qu'ils savent que j'ai appris et j'ai oublié. Donc, je peux leur aider à avancer peut-être musicalement, mais au fond de moi, je respecte tellement la musique où la technicité ne se remarque pas. Mmh. C'est une obsession maintenant depuis 20 ans avec les jeunes musiciens avec qui je travaille et plein d'autres de dire calmez-vous, calmez-vous. La virtuosité ne sert à rien si c'est pas mis au service de la chanson parce que c'est la chanson qui communique avec le public.
Monte le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue à tous, ça va Daz?
Ça va et toi Salman?
Écoute, ça va très bien.
Depuis avant-hier?
Oui, on a tourné, c'est vrai, il y a deux jours, mais pour nos auditeurs, nos spectateurs,
c'est il y a 15 jours.
Donc,
on est des staccanovistes.
Absolument, absolument.
Je dirais pas quelle date on est, parce qu'en plus, l'ordre de diffusion des épisodes, oui. Ça varie un petit peu.
Exactement. Mais ça, c'est le professionnalisme Daz.
Oui, non, mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Donc, on est quelque part dans le premier trimestre.
Ouais. Voilà. Mais c'est parfaitement transparent pour nos auditeurs. Tous les 15 jours, on est là, un mercredi sur deux.
Bien sûr. Alors, qui recevons-nous
Alors, Daz, je suis très content parce que c'est un truc, ça se travaillait, tu vois, en coulisses depuis quelques temps. Ouais. Ça a mis un peu de temps à se faire.
J'ai cru comprendre.
Ça s'est fait. Puisqu'on reçoit mi Franz Liszt, mi Rick Ross, plus Eric Satan qu'Eric Satie. C'est Chili Gonzalez qui est avec nous. Alors, la Eric Satan, elle est pas de moi, c'est dans un de tes morceaux, wow. Chili.
C'est un de mes bars, c'est vrai.
Ça va, Gonzo?
Super, super. Merci pour l'accueil, on est très contents d'être.
Bienvenue, bienvenue. Bah, attends, c'est un plaisir. Parle bien devant ton micro, Gonzo. Tu peux aussi le rapprocher un poil si tu veux, comme ça tu sois à l'aise. Oui. Magnifique.
Je disais que je suis content d'être là et merci pour l'accueil.
Bah, avec grand plaisir. Bah, d'autant plus que ça t'arrive d'écouter l'émission.
Ben, je suis fan du podcast et ça fait un petit moment. On s'est croisés chez Légendes d'Industrie, les producteurs de rap. Et c'est aussi des bons streamers et tout. Mmh. Et on a bien discuté. Ouais. On a fait une espèce de pré-podcast, on peut dire, avec Salman. Mais c'est vrai d'être tout là, tous les quatre autour de la table. C'est bien.
Mais oui, parce qu'on est aussi... Alors là, je connais pas tes idoles, donc je peux pas dire mi-France Liszt, mi-Rick Ross. Je peux dire mi-allemande, mi-française, si tu veux.
Ça me va très bien parce que c'est la vérité.
Mais oui. On est avec Francis Salvatore aussi. Ça va?
Bon, ça va très bien. Trop content d'être là.
Bienvenue, bienvenue.
Absolument. Ben, merci, franchement.
On va parler de plein de choses dans cette émission. On va expliquer pourquoi vous êtes là tous les deux. Parce qu'il y a une actualité notamment. Vous sortez un projet ensemble, un projet visuel qui inclut aussi de la musique évidemment, parce qu'on parle de Gonzo.
Ça serait dommage. Hein.
Et puis on en profitera aussi pour parler un peu plus généralement de ta carrière, de ta vie, de ton rapport à la musique et à ton entourage, etc. Comment t'as construit un peu ta carrière, quoi.
Donc c'est une émission de 8 heures.
Alors non, on va essayer. Écoute, on va essayer de faire ça en 2 heures. Si ça dépasse un poil, François qui monte cette émission, on s'excuse d'avance. On va essayer de pas trop dépasser non plus, mais...
Ouais. Je crois qu'il y croit plus, hein, on lui dit ça à chaque fois.
Faudra passer en Twitch.
C'est vrai que...
Faudrait passer en mode Twitch, hein.
On y a déjà pensé, mais tu sais, c'est pas exactement la même dynamique. Y compris pour nos invités, tu sais, il y a pas le... Là, par exemple, on est tranquille. Tu
vois, là, si vous dites des dingueries, on peut toujours monter et couper. Voilà.
Et ça arrive très souvent, je dis à nos auditeurs, il y a très souvent des trucs terribles qui sont dits dans cette émission, on les enlève.
On les enlève, parce que sinon c'est des problèmes.
Bon, je vous présente quand même tous les deux rapidement. Chili Gonzalez, toi, je te cite, un entertainer, compositeur, auteur, interprète, producteur, pianiste, batteur, rappeur, écrivain, enseignant, acteur, animateur, vidéaste. Bon, t'as fait tellement de choses ces 25-30 dernières années que... Je sais pas comment on va faire, effectivement. On va pas parler de tout, il va falloir choisir.
Ouais.
Ce qui est en plus hallucinant, c'est que dans cette période de 25-30 ans, t'as sorti, juste, rien qu'à ton nom, une grosse vingtaine d'albums, je pense. On est à peu près là-dedans, entre 20 et 30.
Un truc comme ça, ouais.
Ouais. Mmh. Et là, je parle vraiment que de tes albums sous ton nom, parce que alors là, les collaborations, les disques auxquels tu as participé, je sais pas, tu as une idée dans ta vie, on te retrouve sur combien de disques à peu près?
Ouais, encore au moins peut-être une centaine si on veut vraiment parler de tout, inclus ma carrière au Canada, mais évidemment
Bon, moi, je privilège mes albums solo parce que c'est là où je mets tout. Mais les collaborations, c'est hyper important aussi. Des trucs inconnus que personne n'écoute jusqu'à Drake et Daft Punk.
On visualise un peu. Petits artistes indés.
Oui, parce que là, tu cites des grands, effectivement. Alors, parmi les grands, il y a Jane Birkin, il y a Philippe Catherine, dont tu es assez proche d'ailleurs. C'est aussi la clique avec Renaud Létan qu'on a reçu dans cette émission.
Bien sûr.
Vous avez beaucoup travaillé ensemble. Voilà, je peux citer Juliette Armanet, Bonnie Banane, Tequila Tex, qui est quelqu'un d'important aussi pour toi, je crois.
Oui.
T'as cité Daft Punk, ça t'a permis même de gagner un Grammy. Drake, trois morceaux avec Drake, dont le culte Marvin's Room, évidemment.
Évidemment.
Bon, et puis après, il y a aussi tes collabs peut-être un peu plus récentes, un peu plus dans l'univers du rap francophone. Alors là, c'est pas du rap, mais Théodora récemment, La Rumeur, Rossé, Ziné, Giorgio, Caballero et Jean Jass, Souffrance. Bon, il y en a encore plein d'autres. Et là, on parle que de musique. Parce qu'à côté de ça, t'as écrit un film, t'as écrit un bouquin, dans lequel d'ailleurs tu déclares ton amour pour Enya. Il faudra qu'on en parle parce que François, qui monte cette émission, adore Enya. Et il en parle régulièrement. Donc je pense qu'on en discutera à un moment ou à un autre.
Avec grand plaisir.
Ouais. On doit aussi le record mondial du concert le plus long. 27 heures, 3 minutes et 44 secondes de piano. C'était en 2009. Bon bref, c'est n'importe quoi. Ta carrière, il nous faudrait au moins effectivement 6 heures d'émission, Daz. On va essayer de faire de notre mieux en à peu près 2 heures.
Ouais, bah, sinon, on peut parler en vitesse x2.
Ouais, non, c'est pas cool.
Comme ça, on tient les 2 heures et après...
Non, bon, okay. On va essayer de trouver les angles pour tu vois, être un peu, comprendre un peu l'état d'esprit de Gonzo. On va trouver un moyen.
Okay.
Et toi, Francis, bah, t'as plein de casquettes aussi. Dont réalisatrice et directrice artistique. T'es passé par National Geographic, par Arte. Tu collabores avec Gonzo depuis quelques temps déjà. Vous avez fait des clips ensemble.
Ouais, c'est ça. Ouais, je suis. Bon, ça fait depuis 3-4 ans là déjà.
Ouais.
Super.
Et là, on vous reçoit tous les deux parce que justement, vous venez de créer ensemble un format. Ben oui, diffusé sur YouTube, qui s'appelle Zilch. Est-ce que je le prononce bien, Zilch?
Zilch.
Absolument.
C'est que ti, quoi, que dalle, nada.
Ah, tu connaissais le terme?
Ah bah oui.
Zilch, oui. Tu vois, j'ai des trucs dans mon téléphone, comme tout le monde, avec des idées pour un titre du morceau, peut-être un titre pour un morceau instrumental éventuellement. J'ai jamais utilisé, mais Zilch, le mot traîne, je dirais, pendant 15 ans. Un peu, j'aimerais bien utiliser ce mot à un moment. Et c'était le projet où c'était le plus logique de l'utiliser. En plus, après le fait, j'ai vu que Zilch, ça contient les lettres clés de Chili Gonzalez quand même. Chills, Zilch. Donc il y a un truc, peut-être c'est ça qui m'a attiré inconsciemment, j'en sais rien, mais j'en sais Zilch. Mais ce mot, il traîne depuis longtemps. Et quand on a conçu la série, j'ai dit, ah, c'est le moment. Parce qu'on commence avec rien dans la série. On se retrouve avec un artiste en studio et c'est important que le public sache qu'on commence avec rien. Les rappeurs ne préparent rien, moi je ne prépare rien. Et donc on commence avec Zilch et on finit avec un morceau.
Ouais. Bah, je vous propose justement qu'on rentre vraiment dans le cœur de l'émission. En débutant avec cette actualité, avec ce format Zilch, il faut que tu nous dises, on a compris effectivement, vous êtes dans un studio,
et voilà.
C'est filmé.
Et voilà.
T'es au piano.
Fini.
Voilà.
Et puis, oui, c'est et puis c'est il se passe des choses. Quoi.
Studio Ferber, déjà, avec Renaud Létan, qui est le maître du studio Ferber. Et c'est là où j'avais tourné le Grunt 63, qui est un peu le vidéo qui a un peu lancé ma carrière dans le rap francophone. Moi, j'avais tombé amoureux du rap francophone à travers les grunts.
On rappelle que Grunt, c'est un média qui parle de rap et rap, qui ouais. Surtout a fait beaucoup de sessions où en fait, des freestyles, où les rappeurs s'enchaînent, etc. Et c'est de grande qualité, effectivement. Et toi, c'est un truc qui a participé à ta découverte d'une esthétique musicale, d'une scène, la scène francophone?
Ben, c'est ça. Ça fait douzaine d'années que Grunt existe et ils ont commencé dans des petits appartements, mais c'est vraiment une plateforme qui n'existe pas dans les autres pays. La France, vous êtes vraiment la chance d'avoir un média, une plateforme, je ne sais même pas, un concept comme Grunt. Ils ont une indépendance furieuse. Ils sont des gens qui font ça pour les bonnes raisons. C'est vraiment des gens qui
qui sont des prêtres des dieux de la musique. Et ils font ça après, pour les bonnes raisons.
Ça freestyle assis, ce qui est quand même assez incroyable.
C'est vrai que c'est souvent assis.
Ça freestyle assis. Moi, je...
Autour d'une table, comme nous. Ouais. On aurait pu faire un grand ici à quatre. Bon,
c'est vrai.
C'est ça l'esthétisme. Et donc voilà, j'ai eu la chance de proposer faire un grunt en 2023 et ils m'ont donné la chance de le faire. Et pendant que je faisais les préparations, je me retrouvais avec des rappeurs à faire des petites négociations. Qu'est-ce qu'on va jouer ensemble? Il y a moi au piano. Qu'est-ce qui est, comment est-ce qu'on peut rapprocher ces deux mondes, le monde d'un rappeur aussi varié que Jules, Bob Marley et Lil Lige, qui sont des rappeurs un peu plus nouvelle dans génération, grand, voilà, avec la rumeur des OG que je connaissais bien depuis les débuts des années 2000, ou Lil Juice, rappeuse, chanteuse très très versatile.
Elle est trop forte.
Ouais, elle est très très forte. C'était un peu le moment phare et viral du Grunt 63 d'ailleurs. Et je sais pas, j'avais l'impression qu'on aurait dû filmer ces séances de négociation. C'était hyper intéressant. Finalement, le rendu était vraiment cool. Mais j'avais toujours en tête, est-ce qu'il y a un format où est-ce qu'on pourrait assister à ces rendez-vous entre pianistes et rappeurs? Et donc, j'ai amené l'idée à mon DA, Francis Salvatore. Et toi, t'avais pensé quoi, en fait?
Ouais, Francis, dis-nous un peu comment, une fois qu'il t'a fait part un peu de tes intuitions, Gonzo, oui. Tout de suite, tu te dis, mais faisons-le, comment ça s'est...
Oui, tout de suite, j'ai dit, ben oui, chaud, faut qu'on le fasse, mais faut que ce soit un truc un peu plus spécial. Faut aussi qu'on apprenne plus sur le caractère qu'on a devant nous. C'est pas seulement, ça doit aussi transcendre un peu le côté musique. On veut savoir, parce que ça va être, on savait tout de suite, ben ça va être un truc numérique, c'est un truc digital. Et donc, après, de transcendre ce média qui est assez quand même froid, qui, des fois, a des difficultés à transmettre des émotions et tout ça, on veut que les gens se sentent en famille et on veut montrer la chaleur d'une session. En fait, et ce qui se passe dans une journée.
C'est les coulisses du studio. Vraiment.
C'est les coulisses du studio. Et pour ça, comme moi, avant, j'ai travaillé à National Geographic. Moi, j'ai tout de suite dit, ben oui, seulement, tu vois, bah, c'est pas seulement, on dit, c'est Chilly Gonzalez et des autres artistes. Mais faudra push it forward. Faudrait trouver des moyens de les sortir, de les déstabiliser, de les sortir de leur truc normal. Faut les surprendre. Et arriver pour eux aussi à, je sais pas, à voir ce qui se passe pendant une journée.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que là, dans cet épisode est diffusé, il y a déjà 3 épisodes qui sont sortis, donc avec Daniil, avec Bushy, avec TEDx Max. Donc les gens peuvent tout de suite d'ailleurs aller voir. C'est
pas disponible. Tout de suite, écouter l'émission d'abord.
Oui, évidemment.
Mais après, oui.
Mais voilà. C'est disponible d'ailleurs sur la chaîne de Grunt.
Oui, exactement, la chaîne YouTube de Grunt. Ouais. Okay.
Et donc, on peut voir déjà à quoi ça ressemble. L'idée, c'est. Pas seulement que ce soit une session studio classique avec une caméra fixe où il y a Chilly qui est au piano et puis les artistes ils travaillent machin, c'est pas ça. Tu t'es dit toi il faut quelque chose en plus,
quelque chose en plus. Ouais. Oui, j'avais perdu le fil concrètement.
Non, c'était juste pour donner un peu plus de contexte.
Non, super, mais... c'est trop bien. Ouais. J'adore de voir, en fait, je vous observe travailler. J'avais déjà une idée zilch en vous voyant travailler là, comme vous avez okay. introduit et tout, je m'étais dit tiens, faudra reproduire ça en fait. Voilà, donc en fait, comme moi j'ai travaillé à National Geographic, j'ai dit tiens, est-ce que ce serait pas super bien de mettre des caméras, tu vois, genre vraiment avoir une session. Moi des fois j'étais avec lui, ça dure 8 heures, ça dure 7 heures, on est là, c'est un hangout, il y a de plus en plus de gens qui viennent et on est comme ça en groupe et tout. Et en fait, ça me rappelle un peu, tu vois, les troupeaux, je dis pas que c'est des animaux, mais tu vois, de mettre partout des caméras, des GoPro, tout ça, on rate pas un seul moment. Et il y a toujours une caméra sur chaque personne pour qu'on ne rate pas un seul moment. Il faut que chaque émotion soit là et tout ça pour que les gens qui voient ça soient avec nous. Tu vois. Donc en fait, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être avec nous là dans la session.
Dans la pièce, ouais.
Qui puissent vivre ça avec, pour enlever un peu la distance. Ouais, c'était ça à la base.
Et comme la journée est longue, en fait, on oublie les caméras. Mmh. Et c'est ce qui permet de montrer que, déjà, moi et l'artiste avec qui je travaille, on oublie et on se permet de vraiment montrer des trucs
qu'on voit pas très souvent. Le problème, c'est que souvent, quand on présente les trucs en ligne, les artistes, on a tendance de vouloir que montrer les trucs à notre gloire ou les trucs qui sont cool ou les moments. Souvent, quand on voit un séance studio, c'est, on est très conscient des caméras. Je sais pas, les rappeurs vont regarder le caméra fixe et dire « c'est ici que ça se passe » et tout ça. On rigole de ça à un moment dans l'épisode d'Anil parce que, en vérité, en passant 8 heures dans une journée de studio, on oublie. Et du coup, on voit des moments où c'est un peu raté, où on lutte, où on trouve pas, où je joue quelque chose au piano et visiblement, le rappeur n'est pas content avec ce que j'ai joué et il dit « non, c'est pas ça, je veux un truc plus héroïque, je veux un truc plus mélancolique ». Et donc, je crois que le fait d'oublier les caméras, quand je regarde l'épisode, des fois, je me vois et je suis dans un état de confusion, je suis dans un état de en sueur, je sais pas quoi faire, je suis ennuyé, je suis impatient parce que j'attends que le rappeur finisse son couplet. Et on voit rarement ça. Et ça, c'est juste grâce au fait que la journée est tellement longue.
Mais alors, c'est important de le dire, c'est que sur ces sessions qui durent plusieurs heures, donc on quoi, 5, 6, 7, 8 heures, on garde une vingtaine de minutes en fait.
C'est ça.
Un épisode, c'est 20 minutes, donc ça veut dire que c'est quand même bien, bien élagué. Mais par contre, on sait, nous, d'expérience, que les rappeurs sont pas forcément les personnes avec le plus d'autodérision parce qu'ils veulent contrôler leur image, ils veulent être en maîtrise. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont briefés à un moment donné en mode...
Ben eux, ils croient qu'on va juste faire une séance. Ça, c'est sûr. D'accord.
C'est la beauté du truc.
Parce qu'on l'a pas encore dit. On a dit qu'il y a des éléments déstabilisants. Mais en fait, fondamentalement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir tout d'un coup un son qui sort nulle part. Quelqu'un qui débarque inattendu. Des gens avec qui, leurs copains, avec qui ils ont collaboré, etc., qui viennent donner leur avis sur la session studio. Ce genre de choses.
Il y a des petits happenings.
Ouais. Genre Daniel, par exemple, il y a Thury qui vient de rejoindre. Bushy, c'est Ness qui rejoint.
Mais faut pas dire si, faut dire.
Ça, je pense qu'on peut le dire, ça. C'est déjà sorti, en plus. TEDx Max, on retrouve Ekoué, Mac Taylor. Bon, en plus, voilà, c'est à chaque fois, c'est des belles bandes, quand même.
Ouais,
des bons artistes. Et l'idée, voilà, c'était de les mettre dans une situation de surprise pour retrouver aussi une part de naturel.
C'est presque surprise-surprise, c'est qu'on dit de caméra, quoi. Tu vois, ça,
et wow. C'est vraiment, vous avez trop bien vu, parce que c'est vraiment dès le début, en fait, on va les chercher. Et eux, en fait, à la base, ils croient que, voilà, ben, ils vont faire un son. Ils disent, ouais, je suis trop content de faire un son, machin. Mais à la base, ils savent pas qu'ils vont être surpris à plusieurs reprises. Et ouais, et c'est ça, parce que en fait, autodérision du côté allemand, ça se fait beaucoup.
Okay. Canadien aussi.
Canadien aussi. Ouais, et
tu es d'origine canadienne.
Ouais. Ouais. Et en fait, notre producer, le Waco, il avait dit, bon, Deborah, il faut que tu saches un truc. En France ou certainement à Paris, l'humour c'est un outil de force. Et c'est pas l'autodérision, ça se fait pas. Ça va loin dans l'histoire, tu vois. Ça va Versailles, ça va Kingdom, c'est le roi qui rigole des autres. Tu rigoles pas sur toi, mais il y a un bouffon, tu vois. Donc ça va pas marcher, tu vois. Soit où tu trouves un autre truc, mais c'est pas comme ça que ça va marcher.
Il y avait quand même des réserves alors sur.
Ah oui, non, il y avait des doutes et même nos caméramans et tout, ils disaient ouais, bon, à la base, on est chaud, mais on a quand même des doutes. Et donc nous, on y croyait quand même parce que on a quand même vu que, ben, comme à la base, bon, tu connaissais pas tout le monde et tout, mais on a vu qu'ils ont quand même assez d'humour. On dit, ben, on va essayer.
C'est un truc, ça, Chili, qui t'interrogeait, d'autant plus que toi, ça a traversé ta carrière quand même aussi, l'humour, une forme de, voilà, en tout cas, de décalage. D'amener des gens dans cet univers-là, tu te sentais à l'aise, tu savais que ça fonctionnerait ou t'avais...
Ben, disons que dans mes concerts, ce que j'ai appris, c'est que l'humour ou le choc ou le provoque, on peut dire, les trucs un peu polémiques que je vais dire sur scène, ça sert à faire une espèce de reset sur le système nerveux du public. Et après, on peut revenir à la musique. Pour moi, l'humour existe que pour que la musique ait rendu plus puissant après.
C'est le contraste qui...
Voilà, je ne suis pas un stand-up comique, je ne fais pas de one-man show. Je n'ai jamais fait un projet où je fais que des trucs drôles. Pour moi, les drôleries, ça existe que pour rendre la musique plus puissant. Et donc, j'ai appliqué un peu cette logique en disant, OK, s'il y a des moments qui font reset sur le système nerveux de l'artiste, après, on peut revenir et aller encore plus profondément dans la composition. Donc, il y a un moment où Daniil est en train d'écrire. Et puis, comme Francis avait su que Daniil, quand il était adolescent, il avait fait une reprise du générique de Harry Potter en version maghrébin. Et donc, elle a dit, ben, on va envoyer un stagiaire avec un aspirateur habillant Harry Potter. Mmh. Et tout de suite, il arrive. Mais finalement, c'est un blague flatteur. Mmh. Ça veut dire qu'on a fait des recherches.
Ouais.
Et c'est un hommage à son histoire à lui.
Ouais, vous avez digué un petit peu.
Donc, on ne se moque pas de lui. Pas vraiment.
C'est des clins d'œil. Ouais. Ça se fait en famille, les clins d'œil. Machin.
C'est plus Nardwuar qu'autre chose. Tu vois, Nardwuar, c'est le journaliste canadien qui fait des recherches tellement profondes que l'artiste redevient un enfant. Comment t'as su que j'ai fait ça? Oh, ce cadeau-là. On essaie d'être toujours dans la positivité. On se moque pas d'eux. C'est un humour, finalement, qui rend tout le monde un peu enfantin. Mmh. Et donc, on voit la réaction de Daniil, il est là, ah ouais, ah, ils ont su ça. Donc, il comprend à un moment qu'il est dans des bonnes mains, des bonnes mains avec nous. Et du coup, il retourne à son écriture et il a eu un petit moment de reset et il peut retrouver son écriture et, je crois, aller plus profondément dans un morceau qui est finalement assez intime, qui parle de relation avec son papa et sa famille et la musique et tout ça. Donc, c'est très important pour nous. On se moque pas d'eux. J'ai beaucoup, beaucoup trop de respect pour les artistes avec qui je travaille pour se moquer d'eux. Mais je crois que c'est l'expérience du concert où je me moque de moi-même, je me moque du public, je me moque de mes musiciens, mais pas vraiment. Finalement, c'est que pour créer du positivité.
Il y a un truc qui marche bien dans Zilch, on invite tout le monde à aller voir ça, c'est que les moments d'intimité, le cœur de ce qui se passe dans un studio, effectivement, qu'on voit peu, c'est vraiment ça ce dont tu parles. Et effectivement, à travers le contraste, on comprend qu'il y a des choses qui se jouent quand même chez ces artistes. Tu vois, tu parles, Daniil qui peut parler de son père, etc. Moi, ce que j'ai adoré, c'est quand les gens extérieurs, les copains viennent, vous leur faites écouter ce que vous avez, les ébauches en fait que vous avez, et ils donnent leur avis. Ils disent, ah ouais, là je capte l'intention, je pense que vous devriez aller vers là, etc. Là, il devrait y avoir une intensité qui change. Là, mets-toi dans un autre mood à ce moment-là, etc. Et en fait, ça, c'est des discussions qui se passent toujours dans les studios en réalité.
Ouais.
On s'interroge toujours, et on le voit assez peu, les musiciens qui disent, dans quel état, dans quel vibe, on peut pas, je sais pas, parler de mood, de vibe, de certains c'est visuel, certains c'est les mots, ça dépend, c'est vraiment très propre à chacun.
Non, on sent la, tu vois les engrenages en fait.
Ouais, exactement.
Tu sens que ça processe en fait et des fois et moi-même en regardant la vidéo, ce que je disais à Salman avant qu'on enregistre, en regardant la vidéo avec Daniil, même j'avais moi l'impression en tant que spectateur d'être à un endroit où j'aurais pas dû être. Tu sais, ce truc de... T'es un peu
c'est
comme
trop
si,
beau, ça.
Comme si t'étais un peu voyeur du truc, genre, mais attends, là, c'est un truc ultra privé.
On adore cette réaction, c'est trop bien.
Ouais, en fait, c'est... donc, c'est... Enfin, si c'est ça que vous vouliez envoyer au public, bah, ça marche, hein, franchement. Et c'est super cool. Mais alors, du coup, moi, la question, c'est comment, d'une session de 6, 7, 8 heures, comment on coupe pour arriver à 20 minutes qui fait le...
Francis, le montage, c'est quelqu'un d'autre, je crois, mais toi, évidemment, en tant que réal et tout, tu...
Ben, à la base, en fait, je fais le montage et tout, mais je suis pas... Je fais 3 jours de montage pour vraiment... Parce qu'en fait, bien sûr, on entre, j'ai une vision pour la journée et tout Et après, il y a tout qui va se dérouler spontanément, etc. Donc, je fais un cut-down de 8 heures pendant 3 jours. Et après, c'est là que je vais travailler avec Philippe.
Donc, tu dérushes, en fait, c'est ça, en gros
Je dérushe, c'est ça, ouais. Ah, et après,
plus
on
que
fait,
ça, tu trouves tout l'histoire.
Non, je fais tout la dramaturgie des 20 minutes. Donc, le truc est posé. Et après, je me retrouve avec mon gars qui fait... je suis dans le montage avec lui. Et on va juste élaborer les timings comédiens. Parce que moi, je n'arrive pas à faire ça. Je n'ai pas la technique.
Okay.
Mais à la base, en fait, voilà. C'est un produit fait maison avec beaucoup de personnes sympas.
J'allais juste dire, pour revenir à ce que toi, tu as dit, il y a un passage que je crois qu'on voit très rarement. C'est quand, dans l'épisode de Bushy, il y a Ness, son pote, qui arrive en guest surprise. En fait, à chaque fois, les guest surprise, c'est des gens qui sont censés être les livreurs de la bouffe.
Ouais, c'est ça.
Voilà, donc on commande à bouffer.
Ou des Red Bull ou des trucs comme ça.
Ouais, voilà. Ouais. Et finalement, on dit, ah, la bouffe est là. Et puis, c'est son pote, Ness. Et à un moment, Ness commence à brainstormer des bars avec lui. Genre, il dit, ouais, ton chien, il a deux yeux, il a les couleurs yeux différentes. Ouais, ouais. Tu pourrais utiliser un truc comme ça. Et puis, qu'est-ce qui rime avec ça? Indochine. Ah, c'est très marrant de parler. Indochine, c'est deux frères, non, toi? Et moi, ça m'a fasciné de voir ça. Parce qu'on a tendance toujours de voir juste le résultat et dire, ah ouais, le rappeur, il livre son truc avec tellement de sûreté et confiance en lui-même. Mmh. On a tendance de dire que ça coulait juste comme ça. Mais de vraiment voir que Bushy est à l'écoute de son pote pour vraiment trouver un bar, moi, ça m'a touché beaucoup. J'étais en train de dire, ah, pareil, je devrais pas voir ce truc.
Je devrais pas être là.
Comme on dit, on devrait pas toujours voir comment la saucisse est faite. mais là, même moi, j'ai dit, ah, oh, c'est trop intime, là, de voir un bar qui se workshop entre deux rappeurs et tout ça.
C'est trop beau. Et à la base, on savait même pas qu'il allait prendre son chien avec lui. Donc ça aussi, ça a été un moment, oh, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça? Parce qu'on avait une surprise cachée derrière un rideau. Et on voulait pas que peut-être le chien potentiellement aille agresser, tu vois, parce que oui, c'était un humain, tu vois, il aurait agressé, je sais pas, on sait. Donc, on a fait avec, et comme ça, justement, c'était les yeux verrons du chien qui ont trouvé des lignes.
Ouais, franchement, c'est vrai que je me rappelle bien de ce moment-là aussi qui est très... Tu vois effectivement comment se fait la magie. Ouais. Et c'est super intéressant. En fait.
Et dans l'épisode TEDx Max, on n'a pas pu tout montrer au montage, mais il y a une ligne, un seul bar dans le couplet TEDx Max. Et Mac Taylor, il a bloqué dessus. Et on a passé, je crois, 45 minutes à bosser un seul bar. Ah ouais. Et j'étais là, c'était dans une intimité, une fragilité. Et moi, j'étais là juste faire la boucle au piano. Et... TEDx, il essayait son truc et Mac Taylor, non, 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 essaie comme ça. Et ça passait 45 minutes comme ça avec telle légende que Mac Taylor qui insiste sur un seul bar. On a presque envie de pleurer.
Ouais, ouais.
C'est tellement
ça
touchant.
Met l'émotion.
Ça me met des frissons que j'ai assisté à ça. Et j'étais là et j'ai rien dit parce que je savais, il faut juste que c'est TEDx Max avec son idole qui part d'un seul bar microscopique. C'était étonnant de voir qu'on puisse passer autant de temps. Moi, je fais pareil. Si je suis là au piano, des fois, je compose mes morceaux instrumentaux. Et c'est vrai, des fois, je peux vraiment prendre la tête sur un détail. Comment finir juste une seule phrase? Et de voir que ça se reproduit dans un morceau de rap comme ça, c'était étonnant ce moment. Il faut qu'on sorte un bêtisier avec tous les 45 minutes parce que les gens vont dire « Mais comment c'est possible de passer 45 minutes sur un seul bar ?» Ouais.
Ouais, ouais. Et là, moi, j'ai pas l'arme à l'œil parce que je suis pain blanc. En allemand, on dit « Weißbrot » pour des gens.
Okay.
Tu vois,
un peu sensible.
Voilà, mais c'est pas... c'est parce que aussi c'est des moments tellement forts parce que là comme le monde tombe un peu des nues et tout ça politiquement aussi, franchement Socrate lui-même, le général Mac Taylor, ouais. et quoi en fait ils avaient dit tiens aujourd'hui la journée ça nous a donné une épreuve de fraternité, pas fraternité, mais tu vois, de base, c'est ça.
Une solidarité.
C'est la solidarité, c'est la musique, on est là pour un truc. On fait ça ensemble, no matter what.
C'est ce qu'ils veulent, les dieux de la musique. Ah. C'est exactement ça.
Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est pour nos auditeurs, etc. Alors, certains sont des amateurs de rap, d'autres moins, etc. En tout cas, comme tu le disais, c'est des coulisses de studio qu'on voit assez peu, quelle que soit l'esthétique musicale, quel que soit l'univers.
C'est de la musique. C'est,
ouais, c'est toujours intéressant. D'autant plus qu'il y a des un artiste comme Daniil par exemple, c'est pas une pure esthétique rap, en fait il est aussi proche de la pop, il travaille plein de choses extrêmement différentes, etc. Donc je pense qu'il y a entre les différents invités de quoi contenter tout le monde.
Ouais, mais il a la façon de travailler d'un rappeur. Ouais. Et c'est ça qui est important, c'est que je pourrais pas faire une série comme ça avec des chanteurs ou des chanteuses. Ouais. Parce que eux ils arrivent avec quelque chose qu'ils ont un peu déjà composé dans leur intimité tout seul. La plupart des chanteurs et chanteuses ne vont pas réagir à un truc en temps réel avec un autre instrumentiste et finir avec un morceau à la fin de la journée. C'est très rare.
Ah oui. Tu vois vraiment cette différence entre les rappeurs et les autres musiciens?
100%.
Ah ouais.
Et en plus, maintenant que je fais presque que bosser, où on commence avec rien, et je parle pas que de les séances Zilch, mais chaque séance de rap, c'est très très rare que le rappeur il a déjà un texte dans son téléphone. La plupart du temps, on trouve une musique et c'est ça qui inspire un texte. Et si on a la chance, on a un morceau fini à la fin de la journée. Peut-être il y a certains rappeurs qui ne sont pas assez inspirés pour finir le morceau, mais au moins on a un couplet, peut-être un refrain en yaourt, je ne sais pas. Mais l'étincelle se trouve ensemble. Et avec les chanteurs et les chanteuses, c'est pas ça. Il y a toujours un truc qui précède la séance. Mmh. Et pour moi, ça rend le truc un peu plus plat. Et ça enlève l'opportunité pour trouver un moment d'extase, d'exubérance que je retrouve dans toutes mes séances rap, même si le morceau ne sort jamais, ce qui est très souvent le cas aussi. Les rappeurs et moi, on est quand même contents de l'avoir fait parce qu'on a vécu un moment de joie. Ça danse beaucoup. Il y a beaucoup plus de positivité dans ces séances de rap. Il y a des moments où, avec les chanteurs ou les chanteuses, ou on peut dire plus largement le milieu non-rap, où ça se plaint beaucoup sur l'état de l'industrie de musique. Et dans le rap, on se plaint jamais. On est content de faire la musique, même si ça sort pas. Moi, je trouve ça addictif. Je peux plus faire marche arrière. Je peux plus travailler dans la chanson pour l'instant.
Alors que
j'ai essayé un peu. Ces derniers deux ans, on m'a demandé de faire quelques trucs et je dis, mais cette séance était lourde là. C'était sans joie. C'était mort. J'ai envie de retrouver n'importe quel jeune rappeur en studio juste pour retrouver ce truc d'être content pour faire de la musique ensemble. Cette énergie là. Qui m'attire là depuis 2-3 ans et qui m'obsède.
Il faut qu'on en parle, ça peut être d'ailleurs une transition petit à petit sur après l'autre partie de cette émission, on va parler un peu plus de ta carrière, etc., un peu moins de Zilch, mais cette fascination pour le rap francophone, parce qu'en fait, cette fascination pour le rap, tu l'as depuis longtemps, c'est-à-dire que dès le début de ta carrière, fin années 90, début 2000, je parle vraiment sous le nom de Chilly Gonzalez, déjà tu rappais, déjà tu parlais du fait que t'as une culture du rap, mais plutôt anglophone. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui s'est passé ces dernières années, c'est que à la fois dans tes albums, tu t'es mis toi-même à scander, à rapper d'une certaine manière, en français aussi parfois, en French Kiss par exemple,
oui.
et tu t'es mis à travailler, pas exclusivement, mais énormément avec des rappeurs. Raconte-nous cette découverte, alors t'as dit que Grunt y a été pour beaucoup, mais qu'est-ce qui t'a marqué? T'avais pas conscience, toi qui aimes pourtant le rap, t'avais pas conscience de la scène francophone jusque-là? Tu connais bien la France.
Oui, ben j'avais bossé avec La Rumeur, par exemple, en 2004-2005, un tout petit peu. Et j'ai commencé à vraiment voir qu'il y avait un truc qui se passait vers... Ben, on parle souvent de deuxième l'âge d'or du rap français, 2015. Qui commence à peu près 2015, tout ça. Et j'ai commencé à voir sur mon radar qu'il y avait un truc qui se passait. Mais je dirais vraiment, c'était vers... assez récemment, je dirais 2021-22. Peut-être un tout petit peu à la fin de Covid et tout ça, je commençais à m'intéresser un tout petit peu plus et découvrir et faire une espèce de gros catch-up sur tout ce qui s'est passé depuis cet âge d'or, deuxième d'âge d'or. Et je m'intéressais aussi à demander des gens. Francis connaissait bien le rap français. Elle écoutait ça beaucoup plus que moi à cette époque-là. C'est elle qui, par exemple, m'a dit peut-être tu vas aimer Makala.
Ouais.
Et j'ai écouté Makala la première fois, ça m'a fait un déclic, par exemple.
Tu te rappelles ce qui t'a marqué là, tu parles de Makala, par exemple, mais de manière générale, les premières écoutes, qu'est-ce qui t'a séduit?
C'est une bonne question, mais je crois que ça m'a fait un film dans ma tête d'écouter les morceaux de Makala, par exemple. Après, elle m'a proposé d'autres rappeurs ou rappeuses que j'ai pas forcément kiffé au début, mais éventuellement, j'ai dit « Ah, j'ai découvert tel rappeur !» Elle dit « Mais je t'avais déjà fait écouter il y a 2 ans !» Donc, c'est comme ça. Il y a aussi quelqu'un dans mon équipe qui s'appelle Le Waco, c'est le prod exé de Zilch, d'ailleurs.
Et qui est dans le groupe L'État Second.
Ouais, et qui a fait des morceaux solo sous le nom de Le Waco. Et lui m'a fait un Spotify playlist de 200 morceaux de ses préférés du rap francophone qui m'a permis de découvrir des gens comme Jean Jass, des gens comme Dimé, des gens comme Obia Le Chef, avec qui j'ai eu la chance de travailler tous depuis. Et donc, après, j'ai fait mes propres découvertes. Je dirais plus 75e session, c'était plus moi qui ai trouvé Sheldon, Ziné, des gens comme ça. Kirk Russ, c'est lui qui m'a trouvé. Je bosse beaucoup avec lui en ce moment. Souffrance, j'ai trouvé moi-même. Donc, c'est vraiment une combinaison de choses. Mais je dirais que quand mon Grunt 63 est sorti, surtout, il y avait beaucoup de messages de rappeurs. Et un refrain que j'entends beaucoup, c'est « Mon daron t'écoute ». Parce que moi, j'ai 53 ans, Solo Piano est sorti en 2004. Mmh. Et c'est vrai que beaucoup de cette jeune génération, dans leur vingtaine ou trentaine, ben, c'est pile le public mélomane qui ont écouté mes albums de piano. Et surtout aussi mon collaboration avec Drake, soit sur Marvin's Room, mais aussi beaucoup un morceau qui s'appelle From Time de Drake, en featuring avec Gené Aiko. Et je ne sais pas si les gens vont se rappeler de ce morceau. Vas-y, montre-nous.
Tu as ramené un petit synthétiseur piano, avec toi.
Ouais, c'est ça. C'est...
Francis, tu te lances. Fais Drake, allez, fais Drake.
Et juste ce morceau. Mmh. Et il y a juste le piano et un petit kick, un petit snap. C'est un morceau tellement transparent dans la prod et tout. Et je sais que ce morceau a inspiré beaucoup, beaucoup de rappeurs français. Mmh. Moi, j'ai entendu des freestyles. Zamdan, il a freestylé là-dessus. Les gens m'en parlent de ce morceau beaucoup, 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 beaucoup. Quand je suis en séance, ils disent « Tu peux jouer le riff de piano de From Time ?» Et je le joue et ils sont là. Donc, entre Drake, qui est quand même un des rappeurs phares pour les rappeurs français. J'ai compris que en ayant des fans de mes albums de piano ou des gens qui ont écouté Drake, que les gens ils étaient très intéressés, que je me retrouve dans un grunt. Ils se sont dit, il y a un pont, ce mec, il n'est pas en France. Je sais pas, ce mec, il n'est pas accessible à nous, truc. Et là, entre une interview avec Mehdi Maizi chez Le Code et Le Grunt, ben du coup, ils ont commencé à me suivre. Je les suis.
Et t'as intégré la scène presque d'une certaine manière.
Et ouais, voilà, j'ai commencé à échanger avec plusieurs rappeurs pour voir où ça mène. Et à un moment, Souffrance m'invite. D'ailleurs, t'étais là à la séance avec Souffrance. Ouais, le tout premier.
Avant que tu t'intéresses au rap français, Francis, vous collaboriez déjà ensemble avec Chili ou...
Oui.
Ouais. Parle bien devant ton micro, pardon.
Ah pardon, je m'excuse. Ben oui, genre un an, c'est ça?
Disons que peut-être c'était que un peu à l'époque où on a commencé à travailler ensemble.
Tu as vu cette obsession naître et...
Oui. C'est ça, c'est l'obsession qui a, voilà, qui s'est vraiment mise en place, qui s'est installée. Et c'était un coup de cœur de musique, franchement. Ouais. Et aussi peut-être la redécouverte de Instagram. Ouais. C'était en même temps et de voir, ah tiens, et après de vraiment, parce que lui, quand il est obsessionné, il va entendre le son, il va dire ah là là le son j'adore, j'écris Makala, j'écris Souffrance, j'écris ta ta ta, il va tout de suite aller. Et si les gens pensent que ça se fait comme ça en vitesse, tout des fois ça se fait en vitesse, mais il reste sur le cas, c'est quand même aussi du travail de après être en, de se retrouver en studio, parce que des fois les gens ont pas la confiance et des choses comme ça. Donc ça se fait pas toujours tout de suite comme ça. Hein.
Mais par contre, c'est de la prise de contact, elle est directe d'artiste
à
artiste.
Ouais, mais il faut renifler pendant très longtemps avant qu'on se retrouve vraiment à être deux chiens qui jouent ensemble. Pour le métaphore d'être des animaux. mais j'allais dire que des fois, on est très proche de collaborer avec un artiste. Et finalement, ça se fait pas. On sait pas pourquoi. Il faut que ça vienne naturellement, c'est sûr. Il y a des rappeurs avec qui j'ai discuté longuement et on n'a pas vraiment trouvé le moment. On sait jamais pourquoi. Mmh. Et tout d'un coup, je les croise ou j'ai un message genre « t'es à Paris ». Et je voulais juste dire aussi que mon obsession, c'est assez lié que j'ai recommencé après la pandémie à passer du temps à Paris. Et je me suis fait livrer un piano dans mon pied-à-terre ici à Paris. Et le piano est arrivé et c'était une blague presque. Le piano est arrivé et j'ai composé une petite mélodie qui s'appelle Piano à Paris. Le morceau, il est sur l'album French Kiss d'ailleurs. Et j'ai composé une espèce de mélodie un peu style Michel Legrand. Piano à Paris. Et à un moment, j'ai dit, ah, ce serait cool. Je peux imaginer une chanteuse chanter ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que moi, je pourrais faire sur le morceau? Ben, je peux faire un texte en français. Donc, j'ai appelé Tequila Tex, mon très, très bon pote, rappeur en retraite, plus ou moins. Et j'ai dit, est-ce que tu peux ghostwrite pour moi? Tu vois, on va se retrouver ensemble. Je te dis des concepts. Je veux parler des pianistes. Est-ce qu'on peut trouver ça ensemble? Et les premiers textes que j'ai faits, c'est ghostwrite par par Techidatex. Et peu à peu, je commençais à écrire mes propres textes jusqu'à que je peux écrire un rap en entier tout seul sur le morceau French Keys, sur le morceau Nos Meilleures Vies. Et depuis, mes feats avec Souffrance jusqu'à là, je viens de faire un feat avec Jungle Jack, par exemple, où j'ai fait un couplet. Et là, j'arrive à écrire tout seul, like a big boy. mais donc, tout ça, c'est aussi lié à passer plus de temps et renouveler un peu ma relation avec Paris et la France.
Mmh. Et ben, ce qu'on peut faire, c'est on va écouter Nos Meilleures Vies avec Teki, puisque tu en parlais. On s'écoute un extrait. Francis, on te retrouve à la fin de l'émission pour les recommandations. On continue?
Ouais.
Allez, c'est parti.
Merci beaucoup.
Merci.
Coucou, c'est ton chouchou Chili Gonzo. Moustache de gigolo, comme dans un film porno. J'enlève mon kimono, trop chaud. Je suis penché sur mon piano, mais je suis pas Quasimodo.
Boss.
À l'époque, j'étais accroupi sur les groupies. Ma vie était un movie, je cachais mes soucis. Aujourd'hui, je me coule un bain et j'allume des bougies. J'écoute Nana Mouskouri, je vis ma meilleure vie.
Oui, oui,
j'ai massacré des sacrés musiciens. Il y avait Mathieu et Benjamin et Sébastien. Aujourd'hui, fini les bifs, je suis végétarien. Je bouffe la ch*** de ma copine tous les matins. J'ai pleuré les larmes de Dalida. Aujourd'hui, je ris comme si Eric Satie fumait de la sativa. Fini les malaises, fini les malheurs. Je finis mon couplet en tonalité majeure.
On vit nos meilleures vies, non déplaisant. On est des jouisseurs, on arrive sur la scène en hydroglisseur. On améliore la vie des gens avec ce morceau. C'est la fin des haricots, c'est Teki Tek et Chili Gonzo. Ferme les yeux, ça fait envie. J'te dis qu'on vit nos meilleures vies. C'est ça le putain de paradis. De vieux amis qui vivent leur meilleure vie.
Rappeurs, baissez la tête. Un rap qui va vous déboucher les artères ou vous caresser la fesse. Dans tous les cas, c'est la fête. Quand je me balade dans mon quartier l'après-midi, les commerçants me disent bonjour comme dans La Belle et la Bête.
Bonjour.
Mon cher Chili, vous interrompez ma retraite. Je veux bien refaire ce truc de rap parce que je connais la recette. Pendant que je faisais la sieste, les rappeurs se sont mis à kicker, puis apprécier leur rap.
Bon, j'ai laissé un peu plus longtemps que d'habitude. Bon, déjà, on fait un petit changement de plateau. Puis
la
surtout,
transition incroyable.
Ah, c'est vrai.
Et bien joué.
Et puis surtout, c'est tellement rare d'écouter Teki rapper aujourd'hui, quoi.
Ouais. Exactement.
Il t'a fait une petite fleur quand même.
Et ouais, est sorti de sa retraite que pour moi, je suis très touché par ça. Ouais.
Un morceau de Kiefer.
Ouais, ouais.
Rap hédoniste un peu, moi j'aime bien.
Et qui marque une nouvelle étape dans ta vie aussi, j'ai l'impression. À la fois une étape musicale, mais aussi d'accomplissement personnel, etc.
Ouais, en plus, c'est un morceau avec beaucoup d'accords majeurs qu'on attend assez rarement. Tu vois, c'est un morceau triomphal, mais qui est très lumineux, optimiste. Ouais. Mais là, on voulait vraiment fêter notre amitié qui dure tellement longtemps. Et pour le clip, on est sorti dans des très très beaux restos à Paris et on mange et on rappe pendant qu'on mange. C'est pour fêter nos meilleures vies. Voilà.
Bon, avant cette vie, il y en a eu plein d'autres. Et ce que je vous propose, c'est qu'on... Alors, on va pas s'arrêter sur tout, mais qu'on... Voilà, il y a eu quelques grandes étapes quand même dans ta carrière. Et ce que j'aimerais, c'est un peu à chacune de ces grandes étapes que tu nous dises les grands enseignements que tu as tirés. Qu'est-ce que tu as appris sur la musique? Et la première étape, bah alors, donc tu nais au Canada. Oui. Tu grandis entre Montréal et Toronto, si je dis pas de bêtises.
Exactement.
Et d'ailleurs, tu viens pas d'une famille c'est une famille plutôt anglophone et, à la base, c'est ça?
Un peu les deux, parce que mon papa, il avait un parcours entre l'Hongrie, après Pied-Noir en Algérie, après en passant par Montréal, quand même une famille assez francophile,
okay,
avec beaucoup de musique et films et de livres français un peu partout.
La culture française était là. Okay.
Exactement, mais on parlait plutôt anglais chez nous. Ouais. Mais j'ai fait l'école en français.
Ok.
Ouais.
Et t'as donc cette... alors, tu te mets à la musique relativement jeune, batterie, piano, tu fais le conservatoire.
Conservatoire avec des lacunes. Ouais. J'ai fait des cours, après j'ai arrêté et j'ai voulu juste jouer avec mes potes dans des groupes. Après je veux savoir un peu plus sur le science de la musique, je vais reprendre des cours maintenant. donc toujours un peu comme ça, stop start dans la musique légitime et juste la musique pour le kiff avec mes potes. Toujours ce truc en parallèle.
Est-ce que t'as cette formation plus classique, plus jazz, etc. Et en fait, t'es très vite, à la fois tu découvres le rap, les musiques populaires de manière générale, et l'un des premiers trucs vraiment dans lequel tu vas te mettre à fond, c'est plutôt l'indie rock. C'est ta première vie, entre guillemets, au Canada, dans les années 90. Cette période.
Ouais.
Non, c'est pas tout à fait juste.
Si, mais je veux dire, j'ai choisi l'indie rock parce qu'il n'y avait pas d'autre choix et j'avais peut-être pas assez le force de caractère pour insister sur ce que je voulais faire. Donc je dirais que j'étais plus dans un caractère faible qui faisait « bon, il faut que je vais faire comme les autres. Mmh. Je vais un peu me auto-censurer. »
C'était le truc à la mode à l'époque, l'indie rock ?
Ben ouais, au Canada, c'était que de l'indie rock. Donc tous mes vraies valeurs, l'humour dans la musique, une certaine virtuosité cachée, je veux dire, toutes ces valeurs-là, c'était pas des valeurs qui existaient dans le indie rock. Donc, j'ai supprimé quelque part des grosses parties de mon caractère pour un peu faire comme les autres. Donc, ce que j'ai appris peu après, c'est qu'il faut pas faire ça. Parce que ça a pas trop marché. Les gens ont reconnu que j'avais un talent musical, mais le feng shui était pas bon. Mmh. Parce que c'était pas vraiment moi. Et donc, je bossais avec des autres, j'avais des groupes, mais je me cachais en plein vue, on peut dire. Mmh. Et donc, ça n'a pas trop marché. Et du coup, j'ai quitté le Canada en 98, peut-être aussi pour partir, pour reprendre le force de pouvoir être moi-même. Je me suis dit, j'ai trop de connaissances, je suis trop sensible à ce que les autres pensent de moi ici. En plus, comme c'est la culture dans laquelle j'ai grandi, je vais jamais pouvoir avoir le recul d'être vraiment moi-même.
Le fait d'être proche de la famille aussi, ça joue ou pas?
Peut-être, ouais. Peut-être m'échapper de la famille, ça m'a aidé aussi, c'est vrai. Mais comme j'ai une tendance peut-être d'être déjà un peu surformé dans la musique, et il faut bosser pour retrouver les vraies valeurs que les gens cherchent pour l'écoute de la musique. J'étais dans un truc peut-être de dire « Ah, je veux faire comme les autres » ou bien un truc de virtuosité qui faisait que « Regarde, j'ai du talent, je peux jouer vite, je connais beaucoup sur la musique. » C'est un piège dans lequel tombent plein de musiciens de jazz, toujours aujourd'hui par exemple. Et on oublie que ce qui est important, c'est de toucher les gens avec la musique et pas les impressionner. Mais moi, j'étais soit dans vouloir les impressionner avec mon talent, entre guillemets, et mes connaissances musicales. Mais pire que ça, j'ai voulu un peu faire semblant que j'étais pas virtuose et faire du indie rock d'une manière faussement sincère. Donc vraiment, je reconnais maintenant qu'il fallait que je passe par cette phase. Mais heureusement, j'ai su que peut-être il faut que je quitte le pays entièrement pour pouvoir me reconstruire d'une manière plus entière.
Avant de parler de cet exil ensuite à Berlin, qui va être aussi important dans ta carrière, tu disais qu'on te reconnaissait quand même une forme de talent. Il consistait en quoi ce talent? Qu'est-ce que déjà à l'époque les gens pouvaient percevoir de toi?
Ben, je dirais plus je pouvais entendre un morceau et le pouvoir le jouer, le reproduire. Tu vois, j'avais l'oreille très très avancée. Pour pouvoir entendre un accord compliqué et le reproduire, le savoir. J'ai aussi un mémoire assez prodigieux dans le sens où je peux entendre un morceau de 5 minutes et au moins dans mon mémoire de court terme, je peux le reproduire assez vite. Ça m'aide déjà.
Mais 5 minutes intégralement, tu es capable de... Pas loin.
Plus ou moins, ouais. Mais c'est pas pour me vanter. Pas du tout essentiel pour être musicien d'avoir ces talents-là. Je les avais. Et donc, quand je passais des moments avec des musiciens de indie rock, par exemple, je pouvais dire « Ah, il y a une harmonie qu'on pourrait rajouter. » Ils étaient là « Ah, comment tu trouves l'harmonie aussi vite ?» C'est des musiciens qui auraient pu trouver la même harmonie, mais peut-être ça les aurait pris 3 ou 4 heures. Moi, je l'ai trouvé en 3 minutes. Ça ne veut pas dire que je suis mieux que sûrement pas.
peut-être pire qu'eux à cette époque-là. Mais j'avais ce, j'avais un don plus technique et peut-être plus analytique.
Et tu considères ça comme un don, c'est-à-dire que c'était pas seulement la qualité de la formation que tu avais pu recevoir, mais tu avais aussi des qualités un peu quasi innées selon toi?
Non, ben non, c'était parce que j'étais obsédé dans mon enfance et dans mon adolescence avec la musique et j'ai passé beaucoup de temps à vouloir décortiquer la musique et reproduire ce que j'ai que tout à la radio. Je dis pas
des,
c'est des dons innés, mais c'est un don.
Il y a eu des prédispositions.
Mais si tu n'utilises pas ce don pour plaire au dieu de la musique, ça sert à rien. Donc voilà, je dis que tout ce que j'ai fait en école de musique, c'est quelque chose qui m'a aidé. On gagne quelque chose en étant formé, mais on perd beaucoup aussi. Et donc il y a un travail après où il faut oublier tout ce qu'on a appris. D'ailleurs, c'est la citation de Miles Davis qui a dit « Learn everything, then forget everything ». Et c'est, il a tellement raison. Apprendre tout et après oublier tout.
Mais c'est quand même important d'apprendre tout. C'est-à-dire que si on n'apprend pas, c'est difficile derrière, à la base?
Ah non, pas du tout. Non, la plupart des musiciens avec qui je bosse et que j'admire le plus ne sont pas formés comme moi. Donc,
ils sont autodidactes, ouais. En fait, c'est la spontanéité que tu cherches. C'est ça le truc. C'est
Ben après, ça m'aide. Tu vois, le fait que, par exemple, Daft Punk ou Drake font appel à moi, je ne parle que des deux noms les plus big pour avoir de l'effet. Mais en général, si les gens dans la pop, dans le rap, dans l'électro font appel à moi pour des collaborations, c'est souvent parce qu'ils savent que j'ai appris et j'ai oublié. Donc, je peux leur aider à avancer peut-être musicalement, mais au fond de moi, je respecte tellement la musique où la technicité ne se remarque pas. C'est une obsession maintenant depuis 20 ans, avec les jeunes musiciens avec qui je travaille et plein d'autres, de dire calmez-vous, calmez-vous. La virtuosité ne sert à rien si ce n'est pas mis au service de la chanson, parce que c'est la chanson qui communique avec le public. Et si ma musicalité se remarque dans le morceau, au mauvais moment.
Ouais, ça.
C'est une insulte au dieu de la musique.
Ça inverse le truc, ça produit pas l'effet escompté, ouais.
Mais c'est toujours un effort. Même moi, j'ai fait une séance il y a quelques jours, et toutes les séances, j'ai l'instinct de faire plus, et je dis non. Calme-toi. Il y a tout un dialogue qui se passe dans ma tête. Donc, c'est même pas que je suis passé au niveau du Zen Master de musique, parce que c'est toujours un truc. Parce que d'être aussi formé que je le suis, avec mon cerveau analytique, il faut que je fasse beaucoup, beaucoup de travail pour que moi, je m'oriente plus vers l'émotion et les essentiels de la musique.
Est-ce qu'on pourrait parler de la même manière que chez les gens qui ont de l'argent, il y a les gens qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent avec des trucs affichés, des gros logos, etc. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le quiet luxury, tu vois. C'est genre, je l'affiche pas, mais si tu sais, tu sais, tu vois. Est-ce qu'on peut parler de quiet virtuosity, tu vois, genre de ce truc de j'ai tellement de bagages techniques que j'ai plus besoin de la technique, j'ai rien à prouver, en fait.
Absolument. C'est exactement ça. C'est le post-materialism en version, en version musicale. C'est exactement ça. Et on le reconnaît en écoutant des morceaux, et moi, je le reconnais. Mais finalement, la plupart des musiciens avec qui je travaille, c'est plus des gens autodidactes qui prennent plus longtemps pour arriver au résultat qu'ils veulent. Et finalement, c'est mieux de faire comme ça. Et les gens comme moi, et les gens qui sont très formés, qui arrivent à quand même se auto-gérer pour ne pas tomber dans les pièges de virtuosité, d'en faire trop, de se faire remarquer trop en tant que musicien. Nous sommes plus des exceptions dans le paysage de musique actuelle, parce que c'est mieux d'être autodidacte et lutter pour rajouter juste le petit touche extra-musical qui fait qu'on sent cette émotion. Et donc, je respecte ça plus que les gens comme moi. Moi, je respecte les autodidactes qui prennent le temps de trouver la note qui tue, que la personne qui connaît la note qui tue tout de suite et qui est obligée à se discipliner pour pas le rajouter tout de suite ou en faire trop.
Il y a... Il y a une période ensuite, tu as dit, tu pars du Canada, vous arrivez en Europe. Je dis vous d'ailleurs, parce qu'en fait, déjà au Canada, tu montes un groupe qui s'appelle The Shit, avec Peaches, avec Moki. Dans votre entourage, il y a aussi Feist, avec qui tu travailleras dans le, ouais, plus tard. Ouais,
toute une bande, on s'est déplacé en Europe, à Berlin, pour faire les fous dans l'espèce de terrain de jeu bohémien qui était Berlin au début des années 2000. Ouais, bien sûr.
Et donc vous débarquez, voilà, 98. Et donc, j'estime qu'il y a une espèce de période qui est jusqu'à solo piano, en fait, jusqu'à 2004. Qu'est-ce que tu as appris sur la musique à cette période? Et je pose cette question avec un truc en tête derrière, c'est que je sais aussi que tu dis parfois que tu t'es perdu au niveau musical dans, sur cette période. En tout cas, que... Oui, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que
c'est?
Oui.
Ce que j'ai fait, c'est que d'une manière assez extrême, je me suis dit, ok, j'ai un rapport complexe avec la technicité de la musique, donc je vais laisser ça vraiment à côté. Et je suis parti plus dans un truc de vouloir connecter avec un public à travers la scène et à travers l'attitude uniquement. C'est une période plus punk, voire rap, le côté punk du rap qui nous a inspirés à cette époque-là, Peaches, parce que je constate toujours que j'étais jamais vraiment rappeur, mais je rappais. Et on a utilisé le rap comme un style de performance qui permettait d'aller dans l'extrême. Et c'est bien avant que tout le monde avait un téléphone, et heureusement, parce qu'on a fait des trucs assez extrêmes. On était un peu dans un mode... Avant le mot troll qui existait, on était des trolls, quelque part. On disait des trucs, on faisait des trucs très... on voulait casser le quatrième mur de la scène. On a fait des trucs extrêmes, je sais pas... un concert, on allait juste crier pendant 2 heures. Un concert, on allait juste être dans le silence pendant 2 heures. On a tout essayé pour voir qu'est-ce qu'on pouvait provoquer comme émotion du public, casser les règles polies de la performance. Et donc, on était vraiment dans un truc de punk, de art conceptuel, de performance art. Et Berlin, c'était vraiment très, très mûr pour ça, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça à cette époque-là, des artistes sans compromis, des artistes qui s'en foutaient du succès. C'était vraiment faire des trucs extrêmes pour le faire. En plus, Berlin, on pouvait vivre sans beaucoup d'argent et tout ça, donc ça permet d'avoir une culture très expérimentale.
Quand je disais que tu t'es un peu perdu, alors c'est peut-être que je trahis un peu ta pensée exactement. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai cru lire ou t'écouter dire... que la musique était plus la priorité à un moment. La performance a pris un peu le dessus sur la musique. Est-ce que c'est, ouais, c'est
bon,
à peu près ça?
Avec le recul, bien sûr, je vois que c'était nécessaire de passer par ce cap pour un peu aller dans le contresens d'être très conformiste au Canada, avoir supprimé plein de trucs pour pouvoir être le bon élève du indie rock. Et donc, c'était en réaction à ça, je crois. Et je me suis dit, bon, s'il n'y a pas vraiment la place pour ma musicalité, qu'est-ce que c'est la musicalité dans l'année 2000 où finalement, j'ai juste envie d'avoir une réaction. Et ça, on cherchait que ça. On cherchait
à réagir les autres, ceux qui vous regardent, quoi.
Exactement. Et finalement, cette période, bien sûr, elle a duré jusqu'à 2004. Et j'ai quand même des gens qui connaissent Peaches, par exemple, qui reste toujours un performance artist de très, très haute qualité. Et si de loin, on va dire, on va les réduire à une espèce de « oui, c'est un rappeuse qui utilise des gros mots, qui rappe sur le sexe et tout ça », ben c'est beaucoup plus que ça. C'est quelqu'un qui m'a appris à lâcher prise sur scène. Et c'est ça que j'ai vraiment appris pendant ces 4 ans. C'est de me lâcher prise.
Et encore aujourd'hui, tu utilises cet apprentissage?
Absolument. Les gens qui m'ont vu en concert, il y a au moins quelques moments dans chaque concert où il y a un truc où je me laisse aller sans penser à ce que les gens vont penser. Et je me mets sans filtre. Verbalement, musicalement, physiquement, conceptuellement, émotionnellement, le lâche-prise, c'est essentiel parce que c'est un truc qui se fake pas. Et il y a des gens qui vont peut-être faire semblant de lâcher prise. Moi, je vois ça. Je vois plein d'artistes jeunes et je dis, ah, c'est la performance de la lâche-prise. Mais on reconnaît quand c'est vraiment du lâche-prise. Et moi, je donne beaucoup de crédit à Peaches qui a créé cet environnement sur scène où tout était possible. Et c'était beaucoup lié à cette époque-là où
on n'avait pas les caméras sur les téléphones, on n'avait pas peur d'être cancel à l'époque, donc on était beaucoup plus libre qu'aujourd'hui.
Il y a un morceau que tu aimes bien de cette époque, alors parce que tu sors déjà des morceaux, y compris sous le nom Chili Gonzalez. Il y a Chili Gonzalez Uber Alas, il y a plusieurs albums avant Solo Piano, des morceaux, etc. Il y a un truc encore aujourd'hui qui te. Un morceau que tu aimes bien de cette époque.
Ouais, moi je dirais You Snooze, You Lose. Okay. C'est un morceau de mon album Presidential Suite, qui montre l'énergie de cette époque-là, et électro, punk, rap. Et surtout dans les paroles, je pars d'une philosophie d'être sur scène, en fait. Ouais. Donc, tout ce que je viens de dire, je l'ai mis en forme, bars, dans ce morceau. Donc, on peut supprimer les dernières 5 minutes du podcast et jouer le premier couplet.
Hein. On va faire les deux. Allez, on écoute un extrait.
Quelle année là?
2001.
Ah ouais, okay. Ouais.
Et j'allais dire, juste pour parler du virtuosité cachée, là, le riff là, il est un peu bizarre, il est un peu dissonante. Mm. En fait, c'est les notes d'ouverture d'une symphonie de Shostakovich. C'est pas pour me vanter, mais juste pour dire que ouais, la culture de ma formation classique, elle a toujours trouvé sa façon d'être exprimée, même si c'était pas d'une manière. Solo piano, c'est un peu « Ah, je suis au piano, je suis le virtuose du piano, etc. » Mais quand même, quelque part, j'ai tourné le dos sur ma formation. Mais finalement, non.
Oui, elle est là. Mais
parce
c'est
que là, il y a une citation de Shostakovich dans un morceau de electropunk rap, tu vois.
Donc... Est-ce que les gens, il y a des gens qui l'ont capté,
non,
ça?
Non, je crois pas.
C'est des easter eggs bien cachés, quand même.
Effectivement. Bon, l'autre période, alors tu parles de solo piano, parce qu'effectivement, c'est un tournant dans ta carrière. On est en 2004. Et la période où on pourrait aller, alors ça va peut-être étonner les gens, mais je dirais jusqu'à 2011-2012, où tu entames une psychanalyse et qui a quand même aussi eu un impact sur ta carrière, j'ai l'impression, et sur ta façon de faire de la musique. Ne serait-ce que le fait que tu vas plus chanter après ça. Bon, ouais, on va en reparler. Mais cette période 2004-2011, bon, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Parce que c'est la première forme de reconnaissance, vraiment, avec cet album.
Oui, ben, en parlant de qu'est-ce qu'on a appris, je crois que j'ai appris le plus sur la façon de sortir solo piano avec aucune attente et le fait que ça explose. Ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que solo piano, je l'ai vu comme un side project. Je me suis dit, ah, OK, j'ai trouvé un petit truc, j'ai monté une échelle avec mon truc électro-rap, tu vois, j'ai eu mes premiers trucs de presse, mes premiers concerts, et mes premières connaissances d'autres artistes que j'admirais, mais je me suis dit, ah, OK, j'ai commencé à pianoter pendant des séances à Paris, j'étais avec Renaud Le Temps à faire un album de Jane Birkin, c'était assez fatigant. Parce qu'avec Jane Birkin, c'était un peu le cours royal, c'était très Versailles. On pouvait pas s'exprimer très ouvertement. Et moi, je faisais partie d'une équipe. Donc, il y avait plein de moments où j'ai quitté la pièce. Et je suis allé dans une autre pièce de Studio Ferber. Et il y avait juste un piano droit. avec une sourdine. Et donc, j'ai mis la sourdine pour, les gens, pour que les gens ne m'entendent pas. Et j'ai commencé à pianoter. Finalement, j'ai vu qu'il y avait un enregistreur DAT. Personne ne connaît que c'est le DAT, mais c'était une espèce de bande digitale de l'époque. DAT. Et j'ai mis deux micros et je commençais à m'enregistrer. Et je dis, OK, peut-être ça va être des collaborations. Peut-être je vais composer finalement pour reprendre au synthé et faire encore des morceaux de électro-rap parce que j'étais dans ma carrière électro-rap et je vivais de ma musique enfin. J'avais un peu évité le piège de l'indie rock. J'étais pas un musicien virtuose. Moi, j'étais assez content à cette époque-là. En gros, mes rêves sont devenus réalité, j'allais dire. Vraiment. Je faisais des concerts dans des villes, il y avait 400, 500 personnes. Moi, j'étais très, très content, j'étais très satisfait. J'ai réussi ma vie un peu. Qu'est-ce qui vient après ça? C'est ben, je pianote. Et à un moment, quelques mois de pianoter à l'enregistrer, je réécoute les trucs et je dis, ben, peut-être ça serait intéressant de sortir ça, juste pour mes fans, peut-être, qu'ils voient que je suis pianiste. Je sais pas, j'avais tellement... pas d'attente, mais finalement...
Mais quelque chose à prouver quand même ou pas?
Pas du tout. Ouais. Là, pour une fois, non. Ouais. J'avais beaucoup plus à prouver avec mes projets électro-rap, ouais. Mais je faisais vraiment l'album piano, je peux vraiment dire, sans ambition. Je n'exagère pas. Parce que la plupart de mes projets, il y a une vraie ambition derrière et je rêve que ça va devenir gros. Mais l'album piano, vraiment pas. Et là, pour une fois, je sors le projet sans ambition et ça cartonne. Donc j'ai appris qu'il faut toujours suivre ses envies. On ne peut pas calculer le succès. Et ça m'a vraiment, vraiment resté avec moi depuis. Et là, depuis, je fais vraiment des projets que personne ne demande finalement. Personne attend que je fasse une série avec des rappeurs bizarres où on joue des tours. Personne n'attend que je fasse un album rappé en français. Personne n'attend ces choses, mais si j'ai envie, il faut que je vais jusqu'au bout, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il y aura le prochain événement comme Solo Piano. Mmh. Quand j'ai fait Solo Piano en 2004, j'avais un peu le choix, quoi faire après. J'aurais pu faire un Solo Piano 2 tout de suite, mais j'aurais trahi la leçon de Solo Piano 1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Un album un peu raté, qui s'appelle Soft Power, qui est sorti en 2008. Cet album un peu yacht rock. Vous connaissez yacht rock?
On connaissait
en France, ouais.
C'est très
voilà.
Américain, mais.
Ouais, voilà, un truc un peu. C'était un peu hommage à la musique de mon enfance des années 70, Bee Gees, Billy Joel, des trucs comme ça, un peu cheesy. L'album n'a pas trop marché, j'ai pas pu assumer à 100%, donc mon promo, c'est un peu dans le contresens. J'ai un peu chié sur mon propre truc. C'était pas bien, ça n'a pas marché. Mais j'étais content. Parce qu'au moins, je n'ai pas pris la easy way et juste faire Solo Piano 2 tout de suite. Donc, je suis content de moi-même que j'ai fait un truc raté tout de suite après, parce que ça m'a permis après de faire un autre album où j'ai produit avec Boys Noize, un album qui s'appelle Ivory Tower. Ouais. Plutôt instrumental, avec quelques morceaux rappés, mais vraiment
cool,
un morceau instrumental. Et ça coïncide avec le fait que je passe en autarcie totale niveau business. Je crée mon propre label, propre édition, propre tourneur, 100% indépendant, 2009. Et le premier album qu'on sort, c'est Ivory Tower, produit par Boys Noize.
Ouais, mais du coup, en fait, le truc, c'est que donc, tu te considérais comme un artiste électro-rap, vraiment, c'était ton style de musique.
Hipster.
Voilà. Après, tu fais Solo Piano, et à partir de ce moment-là, du coup, comment tu te définis, toi, si on te demande de te ranger dans une case?
Est-ce que, d'ailleurs, on s'écouterait pas un extrait pour que les gens voient, tu vois, de Solo Piano, et après, il te répond.
Oui, vas-y.
Fais comme ça.
Allez, exactement.
Sur l'album, il y a un morceau que tu trouves encore très réussi sur Solo Piano.
Tous.
Mais c'est un qui te tient encore plus à cœur que les autres.
Je sais pas, on peut mettre Dot, par exemple.
Ouais.
C'est un des tubes de Solo Piano.
Allez, ça marche, on écoute Dot alors. Thank you.
on se positionne à ce moment-là, donc 2004, toi tu fais ça. Est-ce que tu as pensé, par exemple, aux gens qui étaient fans du Chili qui faisait de l'électro-rap et qui du coup allaient peut-être pas comprendre le projet? T'avais ça en tête de se dire merde, ma fanbase en fait.
Ben, c'est pour ça que c'était un side project, parce que je me suis dit là je casse un peu la règle de répéter ce qu'on fait, d'établir le brand ouais. Je suis allé dans le contresens de ça en sortant l'album de Piano, mais j'avais un instinct de dire ok, au moins je le sors parce que je trouve ça bien. Et c'était juste
sauf qu'après t'es plus jamais revenu à l'électro-rap du coup.
Au rap, en tout cas, oui.
Le
rap,
oui, Ivory Tower, c'est quand même produit par Boys Noize, qui est purement un producteur électro, il faut le dire aussi. Night Moves, c'est un morceau d'électro.
J'adore ce morceau, il faudra qu'on s'écoute un morceau, un extrait.
Ouais, Night Moves, il est fort. Hein. Boys Noize, il a tout détruit avec la prod et tout. Je sais pas, en fait, quand cet album Piano est sorti, et ça a tellement élargi mon fanbase.
Oui, t'as gagné d'autres auditeurs, en fait.
J'avais pas perdu autant. Parce que, en fait, j'avais une crédibilité, du coup. Ça j'ai su en rétrospect, hein, c'était pas planifié, mais en fait, j'avais une crédibilité auprès de ce fanbase un peu plus tastemaker, tu vois. À l'époque, tu vois, je faisais des soirées privées avec des marques et tout ça. J'étais vraiment dans ce truc du beau monde parisien, hipster à mort, hein. Bobo fois mille. Ce public-là, ils ont vraiment suivi l'album Piano.
D'accord.
Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient de la musique électro, électropop, rappé, un peu punk, un peu arty, qui auraient osé de faire un album Piano. Maintenant, il y a beaucoup de gens dans la pop qui vont dire « Ah, je fais mon album Piano », ça s'appelle du néoclassique même, il y a des gens qui font ça tout le temps. Mais à l'époque, je peux dire que j'étais quasiment le premier. À peine, on peut dire, peut-être Ian Tiersen était un peu pareil. Mais lui, il a un autre parcours quand même. Mais
On l'a reçu.
Ouais, j'ai écouté l'épisode, il est trop bien. Et pareil, lui, il est pareil. Il lui a dit faire un album électro, il s'en fout. Et après, il va faire un truc. Il s'en fout qu'il ait...
Son côté punk aussi, effectivement.
Voilà, il s'en fout qu'il ait connu, premièrement, pour les trucs de Amélie Poulain et tout ça. Et il fait ce qu'il veut. Et il cherche pas à faire Amélie Poulain 2, Amélie Poulain 3, Amélie Poulain 4. Moi, j'ai pas cherché à faire solo Piano 2, 3, 4, jusqu'à que c'était sincère. Et du coup, j'ai fait l'album Soft Power, un peu raté. Après, j'ai fait le grand pas dans le business d'être en autarcie totale. Et j'ai sorti Ivory Tower comme premier album indépendant.
Qui d'ailleurs, parce qu'il y a un film, Ivory Tower aussi.
C'était un film aussi.
C'est pas la bande originale du film, mais c'est quand même au même moment.
C'est ça. C'est un film inspiré par un album.
Et un film d'ailleurs dans lequel tu apparais.
Ouais, j'ai co-écrit et j'ai joué dedans aussi. Et cet album, en fait, il y avait un petit single qui s'appelait Never Stop. Et ce morceau, il est tombé sur le radar de quelqu'un chez Apple, bien avant que l'album sorte. Il est sorti sur vinyle chez un label hipster anglais qui s'appelait Fantasy, de Errol Alkin. Je ne sais pas si vous voyez ce DJ. Donc Errol Alkin a tombé amoureux du morceau Never Stop. En avant-première, avant que l'album sorte, il a dit « Je peux le sortir ». Grâce à sa sortie sur le label de Errol Alkin, quelqu'un de Apple a écouté ce morceau. Ils ont utilisé comme bande sonore du premier pub pour leur iPad.
Ah ouais. Et voilà.
C'est le son de l'argent, ça.
C'est le morceau Never Stop.
C'est ça ?
Ouais, voilà.
Moi, j'entends que tcha-ching.
C'est vrai que ça fait un peu le bruit des machines à sous aussi.
Ah oui, bien sûr.
Tu vois, c'est un truc un peu, on peut dire, du Steve Reich en mode hip-hop un peu.
Ouais. J'avance un petit peu pour qu'on voit.
Et bien sûr, un pub iPad à l'époque, vu que c'était le tout premier et tout,
2010,
ça fait cartonner mon premier disque en indépendant, ce qui me permet de vraiment construire une bonne infrastructure. On peut dire que c'était vraiment, encore une fois, de voir comment suivre ses envies, mais aussi la chance peut jouer un rôle sur le succès et tout ça. Donc, pareil,
après Ivory Tower, j'ai pas refait Ivory Tower 2, ni retourné à faire un solo piano 2, parce que ce que j'avais envie, c'est de re-rapper. Et j'ai fait un album encore assez raté, qui s'appelle The Unspeakable Chili Gonzalez.
Il y a quelques morceaux marrants et cool, que moi j'aime bien. Mais
Laquelle?
Bah, par exemple, attends, je regardais, j'avais mis de côté.
Et c'est un album concept où je rappe que sur l'orchestre. Parce que, pourquoi? Je voulais retourner au rap, mais pas à rapper sur des beats. Parce que je me suis dit, je suis pas rappeur. Il faut que je trouve une façon de rapper plus concept, où je suis pas en compète avec des autres rappeurs qui rappent. Surtout en 2011, c'était le début de qu'on passe des trucs très samplés ou très 2000 à beaucoup plus Atlanta. Ouais. C'est le début un peu de trap et de Lex Luger, tous ces trucs-là. Et j'ai dit, ah là là, je peux pas rapper sur des trucs comme ça. C'est la tendance. Il faut, si je rappe, il faut que je trouve une façon de le faire qui fait très Chili Gonzalez. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée de rapper sur uniquement l'orchestre.
Moi, j'aime bien Super Villain Music qui ouvre l'album. Par exemple, je trouve que Shut Up and Play the Piano est cool aussi. Bon, je sais pas, il y a des.
Mais vas-y, un peu de Super Villain Music, vas-y.
Ah bah vas-y, on met ça.
Jerk talking about how hard he works. Come and be a flirt, I'm an expert. You can wipe off this smirk. Do you like rap? Well, it so happens I'm so ballin'. What I mean is between you and me, there's a gap, don't fall in. What a funny way to approach music, I must be stopped. You got your eye on the top, I drop to the bottom of the pops. Harmony's French, but the melancholy melody's so Slavic. Whether I rap fast or slow, the rap flow's polysyllabic. From the minute I'm awake, it's a great day to get this cake. Polishing a mixtape, let me fixate on a flow in 6/8. I'm a lot of things, but a left-wing singer-songwriter, I'm not. I'm a lot of things, but a left-wing singer-songwriter, I'm not. Let's smoke all that, yeah, we can hang around like a ball sack. Get higher than a top hat on top of a rather tall chap. The cyborg version of George Gershwin, I'm a Tin Pan fan. Famous in Paris, I'm embarrassed, cause I can't.
Un, deux, trois. Donc là, je rappe sur un valse qui s'est fait très, très peu à cette époque-là. Là, ça se fait un tout petit peu plus. Mais à cette époque, encore, il y a ce truc d'utiliser la musique comme un jouet. De dire, je ne sais pas comment dire en français, what if. Comment on dit what if en français?
Et si.
Voilà. Ouais. Beaucoup de mes projets sont et si. Juste fantasmé, qu'est-ce que ça donnerait de rapper sur un orchestre, sur un valse?
T'avais brandé un peu l'album en disant c'est le premier album de rap purement, intégralement orchestral de l'histoire, quoi.
Ouais. Comment, parce que personne n'attendait, mais je l'ai fait.
Il y a justement toute cette bravado dans les lyrics, justement, tu vois, la Cyber version of George Gershwin, tout ça, machin et tout. C'est littéralement ce que t'expliquais, c'est-à-dire, tu utilises ton bagage technique, mais comme un peu malicieux, tu vois, comme un gosse, en fait, tu t'amuses, tu vois.
C'est exactement ça. C'est pour m'amuser avec la musique. La musique, c'est un jouet.
Ce qui est très drôle, c'est que en termes de flow, là, ben, en fait, ça rappe comme des artistes des années 2020, là, que j'entends moi. Merde, je sais plus son nom, mais un mec du Kentucky, là, qui rappe Tyler Hero.
Ok, je vois pas.
Non. Tyler Hero, c'est le nom du morceau, mais.
Okay, je suis pas un rappeur, mais je rappe.
Ouais, mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, depuis tout à l'heure, tu sais, par humilité, je pense, tu dis, je suis pas un rappeur au sens MC, tu vois, Cypher, mais en fait, là,
je suis pas sûr que ce soit qu'une question d'humilité, parce que ça, j'aimerais qu'on en parle. Je sais pas si c'est le bon moment d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a une question aussi d'une forme de légitimité autour de la culture, du background, de plein de choses comme ça.
Quand je dis humilité, c'est lié à ça aussi. Ouais. C'est lié à se dire. Le rap, c'est né à Brooklyn. Moi, j'ai envie de jouer un pas de là, machin, etc. Donc,
parce que quand on dit je rappe, mais je suis pas rappeur, c'est presque il y a la forme rap que elle j'emploie.
Voilà, le style de musique.
Voilà. Mais par contre,
et la culture, c'est autre chose.
C'est ça, ouais, c'est cette distinction.
Exactement.
Ok. Explique-nous un peu plus. Pourquoi tu peux pas te dire je suis un rappeur?
Parce que je ne suis pas un rappeur.
Bah, tu fais des albums.
Non, je suis un musicien et je m'exprime dans plein de façons, au piano, aux machines.
Qu'est-ce qui te distingue du rappeur, alors, lorsque tu rappes? Qu'est-ce qui te distingue du vrai rappeur, si je puis dire, tu vois?
Parce que moi, je viens d'un milieu où il y avait beaucoup de soutien pour la musique dans laquelle j'étais formé. Il y a des institutions, il y a des universités, il y a des médias, il y a des subventions. C'est logique, quand on rentre dans un conservatoire et on apprend le classique ou le jazz. Et c'est marrant ce que je dis, parce que le jazz a commencé plus comme le rap, mais est devenu un truc très institutionnel. Et peut-être le rap, un jour, sera pareil. Peut-être qu'il y aura des universités de rap, un jour, comme il y a des universités de jazz, comme ça. Mais quand le rap est né, et jusqu'à assez récemment, et peut-être même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de soutien de l'infrastructure. Et donc, c'est plus dur de faire passer cette musique quand il n'y a pas l'aide. Moi, c'était assez facile de me retrouver dans... le tour d'ivoire de la musique, le classique et le jazz, parce que c'est assez clair le chemin. Après, les gens qui ont vraiment fait l'effort pour amener le rap jusqu'au point que moi je l'entende et que moi je tombe amoureux de cette musique, pour pouvoir après dire « Ah, ça fait parmi des styles de musique que je kiffe, que je me permets de rapper de temps en temps », ben c'est par respect pour les gens qui l'ont monté, sans être aidé. Ça c'est le vrai flex, c'est que le rap a surmonté malgré d'être pas aidé par la société vue large. Et donc c'est par respect que je vais jamais dire que je suis un rappeur ou que je viens d'un milieu qui a fait l'effort pour faire que le rap existe. Moi je profite quelque part.
Donc c'est la volonté de ne pas te l'approprier, en fait. C'est ça, tu veux pas faire de l'appropriation culturelle, on pourrait dire presque...
Ben, cette phrase n'existait pas en 2000, vraiment, mais quelque part, oui. Je veux dire que... Je vais dire ça pour presque tous les styles de musique qui sont pas vraiment dans ma formation.
Ouais.
Ma formation, c'était vraiment de jouer de la musique avec mon frère aîné, de faire de la pop avec des synthés dans les années 80, de faire les cours avec mon grand-père sur la musique classique, de commencer à jouer du jazz avec des profs qui m'ont encouragé à faire ça. Je peux dire que ça, c'est des trucs qui font vraiment partie de moi. Et depuis que ma vingtaine, j'ai dit ok, j'ai compris le classique, le jazz, c'est important comme base, mais déjà on s'amuse pas très beaucoup dans ces styles de musique et moi j'ai envie de m'amuser, mais aussi j'ai envie d'être un homme de mon temps et donc je cherche l'énergie. Où il y a la musique que j'aime bien, où il y a l'énergie, où les gens qui partagent mes valeurs, de vouloir faire de la musique d'une manière exubérante. Et j'ai trouvé ça dans l'électro, dans le rap, un tout petit peu dans la chanson et la pop, mais surtout dans l'électro et le rap. Donc je me suis dit, ok, je vais chercher cette énergie, je vais faire de la musique avec les gens qui font ça. Juste avant que je quitte pour l'Allemagne, j'étais déjà là à jouer du piano avec plein de rappeurs dans des jam sessions, avec Moki surtout, on était branchés avec des rappeurs, et j'avais compris, j'ai pris confiance, et eux, ils nous ont encouragés de jouer avec eux. Et je dis, ok, j'ai ma place dans cette musique aussi, quelque part, même si c'est pas le mien, je peux trouver ma place dedans. L'électro, c'était pareil, je me retrouvais avec plein de producteurs électro à Berlin dans les années 2000, et je dis, ok, c'est pas ma culture, j'ai jamais été dans un rêve, j'ai jamais pris du MDMA, tu vois, c'est pas moi, vraiment. Mais j'ai quelque chose à contribuer parce que j'ai envie d'être où il y a cette énergie-là. Donc, en étant respectueux, je crois qu'on a le droit de construire des ponts avec des autres styles de musique. C'est possible qu'il y ait des gens qui disent chacun doit rester à leur place. Moi, je suis pas d'accord perso. Si je rends offense par construire des ponts, je peux rien faire contre. C'est vraiment ça que quelque part j'ai dévoué ma vie à faire ça. Et donc s'il y a des gens qui sont plus dans ok, non, toi t'as fait une formation classique, jazz, pop, t'es obligé à rester dedans, désolé, je peux pas.
On s'écoute un extrait de Night Moves. Alors, je suis embêté parce que donc il y a la version studio, il y a aussi des versions live que je trouve géniales. Il y a la version aussi vraiment solo piano. Bon, toi, t'as un petit faible pour l'une des versions.
Ouais, version originale.
C'est vrai.
Ouais.
Bon, bah écoute, on écoute ça. Peut-être que j'avancerai parce que le morceau il monte vraiment d'intensité. Donc peut-être que j'avancerai un petit peu un moment. On va voir.
Thank you.
Oui, le refrain qui arrive. Viens. Voilà, il y a encore de virtuosité cachée là dans le refrain, parce que chaque note, elle vient sur le double croche juste avant le 1. Et donc il y a une espèce de syncopation qui est très très rare dans la musique, mais qu'on entend pas mal dans des titres de jazz ou de musique brésilien.
C'est ce que j'allais
très,
dire.
Très très syncopé. Et voilà,
c'est le corps, là.
Donc ouais. Moi, tu vois, je fais ça et je dis, OK, il y a une place pour une technique que normalement on va juste entendre dans une musique très très pointue, mais là on va l'entendre dans un truc électro. Et donc, pour moi, de mettre les voix là avec les petits bells qui arrivent, 1, 2, 3, 4, et quand je joue en concert, souvent le public se met à faire le clap sur tous les temps, mais comme on fait. Il y a un moment, il chasse le truc. Non, on croit que c'est sur le 1. Et c'est limite un moment de confusion musicale. Parce que dans ce contexte-là, surtout live, je le joue peut-être sans le pied qui fait le 4 on the floor et tout. Et c'est hyper intéressant d'avoir ces moments en concert où on voit que des techniques musicales qui passent pas, qui confondent les gens. Et donc, c'est toujours dans cet esprit de vouloir jouer avec la musique que je cherche et... Night Moves, c'est le morceau climatique de tous mes concerts. C'est le seul morceau vraiment incontournable. Je crois que j'ai jamais fait un concert sans le jouer. Mmh. Et si j'attends le rappel et je dis qu'est-ce que vous voulez entendre, en fait, c'est pas une surprise. J'ai même pas à changer le setlist. Je sais que les gens vont crier Night Moves et on le joue. Donc c'est, je demande ce qu'ils veulent entendre faussement parce que je sais que c'est Night Moves.
D'ailleurs, tu le joues dans le grunt.
Ouais, exactement.
C'est une version très cool aussi.
C'est-à-dire qu'en concert, tu fais exprès de ne pas le jouer pour pouvoir le jouer en rappel.
C'est ça.
Ouais, okay. Ok.
Donc, je disais jusqu'à 2011-2012. Alors, tu vois, donc il y a solo piano, il y a donc ces tentatives rap, puis tu fais d'autres choses. Machin, bon, ouais, voilà, on va en avoir un petit exemple. Et puis il y a cette petite rupture, alors qu'il y a un truc un peu personnel, je veux pas qu'on rentre là-dedans forcément, mais quand même, c'est intéressant parce que tu dis, t'entames une petite analyse. Et toi qui avais quand même dans beaucoup de projets jusque-là chanté, écrit des paroles, machin, etc., et ben, pendant toute la durée de cette psychanalyse, pas 8 ans, un truc comme ça, 7-8 ans, quelque chose comme ça.
Ouais, 9 ans, 2012 à 2021, je crois.
T'as pas écrit une seule parole, t'as pas chanté une seule fois sur un morceau.
Presque. Ouais. Quasiment rien. Ouais, j'ai sorti un album instrumental avec un quatuor à cordes qui s'appelle Chambers.
Qui est très bien, que j'aime beaucoup aussi.
J'ai sorti un album en collaboration avec le chanteur anglais Jarvis Cocker, le chanteur de Pulp, qui s'appelle Tear Room
Jerker,
29.
J'adore Tear Jerker.
Ouais. Et il est bien ce morceau. Et donc, j'ai travaillé avec un parolier très, très avancé. Jarvis Cocker, c'est quelque part, c'est le Philippe Catherine anglais, si je peux comparer un truc. Le niveau de texte qui combine l'humour et une tragédie profonde et beaucoup d'émotions contrastantes. J'ai fait un album de Noël qui est sorti en 2020. Un album où j'ai joué les cantiques de Noël, version mélancolique, voire des fois changé de majeur en mineur. Donc je parlais à travers les instruments beaucoup plus que les paroles. Et c'est vrai que le psychanalyse, qui est basé sur mettre les mots sur nos sentiments les plus profonds, quelque part, ça a remplacé le besoin de d'écrire des paroles. Parce que les paroles sur The Unspeakable Chili Gonzalez, par exemple, qu'on avait entendu, l'album orchestral rap de 2011, si on lit les paroles, si on ouvre le booklet et on lit les paroles, c'est un cri à l'aide quand même. J'allais pas très bien. Et c'est entertaining as fuck, heureusement. Mais je vois avec le recul que c'était quand même une espèce de cri à l'aide. Et donc, quand j'ai pris le psychanalyse, c'était genre, OK, j'ai plus besoin de faire des paroles. Pas consciemment, c'est juste que j'en ai pas fait. Et quand je faisais ces paroles qui étaient un cri à l'aide, je croyais pas que c'était un cri à l'aide. Je croyais que c'était juste quelque chose cool que Chili Gonzalez peut dire. Mais avec le recul, je vois que c'est un cri à l'aide. Mais à l'époque, quand les trucs sortaient de mon inconscient sur le papier, ça ne me touchait pas. C'est un peu bizarre à dire, mais c'était un peu automatique. À cette époque-là, je faisais la pêche en moi-même, les choses sont sorties et j'ai accepté. Je dis ok, ça devrait être un truc cool à dire. Et je les ai mis sur papier en me disant, j'ai déjà une distance à ce sentiment qui est sur le papier. Mais ce qui est bizarre, parce que les sentiments, on devrait les sentir. On ne doit pas passer que c'est souterrain et que du coup, c'est là pour tout le monde à consommer. C'est bizarre de sauter l'étape où on le sent consciemment. Et donc, c'est pas sain. Et le psychanalyse, au moins, c'était la version saine de mettre les mots sur ces trucs très, très profonds. Et c'est pour ça, je suis assez convaincu que c'est pour ça que je n'ai pas écrit de parole pendant ces 8-9 ans.
Ouais. Est-ce qu'il y a eu une part dans, tu parles d'une forme de mal-être à un moment aussi dans ta vie, est-ce que c'était aussi le métier de musicien qui pouvait rentrer en jeu, est-ce que tu pouvais aussi rentrer, tu sais parfois on dit par exemple que ben, un musicien quand il va pas bien c'est là où il écrit de bonnes chansons, les trucs comme ça et tout, il y a pu avoir un peu ça chez toi ou c'était vraiment des trucs perso et on passe à autre chose et voilà.
Plus c'est des trucs perso que j'ai réglés pour être bien, mais j'ai jamais remis en question le fait d'être quelqu'un de créatif, dans le sens où musique instrumentale, comme il y a une abstraction et il n'y a pas des vrais mots, on n'est jamais vraiment bloqué. Les musiciens qui n'écrivent pas de paroles, c'est très rare d'être bloqué. On peut faire des choses qu'on n'aime pas, mais on est rarement bloqué. C'est pas pareil que quand il y a la page blanche. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre en 2019 sur Enya, j'ai connu ça. Même des fois, si j'ai envie de même écrire, je sais pas, un bio pour un album, et des fois, je vois le curseur sur l'ordi qui flash et tout, et je dis oh, « What the fuck ?» Parce que les mots, c'est le plus dur, parce que les mots sont définitifs. On a un langage vraiment partagé où un mot a un vrai sens. Après, on peut les combiner pour créer des abstractions dans la poésie, mais les mots eux-mêmes, the building blocks des paroles de la poésie, c'est des mots. Table veut dire table. Tristesse veut dire tristesse. Pomme de terre veut dire pomme de terre. Dans la musique, un accord, ouais, on peut tous apercevoir cet accord. Oui, c'est un peu mélancolique, mais c'est la mélancolie de la nostalgie. C'est le souvenir d'être triste, mais là, on est content. Mais on est triste que ça ne va plus se reproduire. Ça devient compliqué d'essayer de mettre des mots, de vraiment bien décrire qu'est-ce qu'un accord ou une mélodie ou un intervalle ou un petit soupir, un petit, je sais pas. Donc, musicalement, je me sentais safe pendant cette période, de ne pas mettre des mots sur mes feelings, mais de les exprimer par l'instrumental. Du coup, j'ai fait Solo Piano 2, 2012. Et j'ai fait, voilà, le truc qu'on a évoqué. Avec Jarvis Cocker, c'était génial parce que j'ai pu participer à un projet avec des paroles, mais je n'étais pas responsable pour les paroles.
Tu veux qu'on s'écoute un extrait de cet album?
Ben vas-y, dis le Tearjerker, tu veux?
Moi, j'aime. Non, mais c'est toi qui peux choisir aussi.
C'est ton préféré, vas-y.
Bon, ben écoute, on fait ça.
You are such a jerk. You are a tearjerker. You don't need a girlfriend. You need a social worker. She's waiting at the airport. You're in your hotel room with someone who doesn't know you. Everybody always knew the game that you were playing. You were fooling no one, so we're glad that you are paying. Still she's gonna cry. Yeah, still it's gonna hurt her that you are a tearjerker. You're such a jerk, yeah. A tearjerker. You're such a jerk, yeah.
des surfaces.
Ouais, j'aime bien ce morceau parce que, alors évidemment, il joue sur le contraste de l'instrumental, très, très, très dans l'émotion, très mélancolique, etc. Et puis au début, tu vas te dire, ah, ça va être des paroles délirantes. Puis en fait, elle dénonce aussi un vrai truc, les paroles. Il y a un truc qui se passe que je trouve.
Et c'est presque un morceau de rap. Hein. Imagine un rappeur comme, SCH avec un auto-tune. On n'est pas loin. Hein. Ouais, on n'est pas loin d'un esthétisme de rap, finalement.
Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu nous as pas dit, enfin on a compris à peu près en quoi elle a consisté cette époque, si je peux dire. Qu'est-ce que tu tires comme enseignement, qu'est-ce que tu peux encore utiliser aujourd'hui de cette période?
Ben, heureusement que j'ai fait cette période pour un peu régler des trucs perso, pas au point que je dis que j'étais guéri de tous mes démons, mais de prendre un peu plus de recul sur ma vie, et le fait que ma vie perso s'améliore, ça m'a permis d'être plus à la recherche de la joie dans la musique, je dirais. Donc la période là que je vis, où je cherche l'exubérance avant tout, où je peux le trouver en respectant surtout des nouvelles générations de musiciens et d'apprendre d'eux, de savoir que j'ai à apprendre d'eux et qu'ils m'acceptent et d'attendre qu'ils m'invitent chez eux pour faire de la musique, je retrouve beaucoup de joie que je suis bienvenu dans cet espace musical. Et ça aurait été pas possible avant le psychanalyse. Avant le psychanalyse, je restais plus dans mon coin. Et les collaborations se passaient autrement. Comment je peux décrire ça? J'étais un peu plus un vampire de mes collaborations. Juste parce que j'étais enfermé en moi-même. J'étais pas malsain. C'est pas que j'ai utilisé les gens, mais... Même sur scène, l'énergie que j'ai prise du public, les applaudissements, j'ai mangé ça. Ah, j'ai faim, je vais manger, je suis gourmand. Là, quand les applaudissements viennent, post-psychanalyse, c'est une réflexion, ça va dans les deux sens. Je ne vais pas confondre ces applaudissements pour le vrai amour, par exemple. Je ne vais pas confondre que je fais une collaboration avec le fait que je le mérite. Maintenant, je reconnais que l'énergie doit toujours aller dans les deux sens. Je suis pas une machine à manger l'énergie des autres. Il y a un sens à ça?
Complètement.
Fort de ces enseignements, tu te dirais pas qu'il y aurait peut-être des collaborations que tu avais fait dans le passé qu'il faudrait refaire avec les mêmes personnes pour justement peut-être pas être un vampire de la collaboration et leur renvoyer un truc. T'as des regrets justement sur des trucs où tu te dis si j'avais
pas de regrets, mais j'en ai parlé à certains gens et on a discuté. Heureusement, la plupart des collaborations ont continué. J'ai même fait un album avec Boys Noize sous le nom de Octave Minds, un petit side project en 2014. Là, on fait des prods des fois ensemble, on est toujours en contact. Peaches, tous ces gens-là, Feist, avec qui j'ai produit plein d'albums, Philippe Catherine, on est toujours sur des très très bons termes. Et des fois, on discute du passé, et des fois, c'est eux aussi qui racontent que ils ont fait des progrès dans leur vie perso. Je suis pas le seul à vouloir faire des progrès dans sa quarantaine. je veux pas dire non plus que j'ai vécu tellement un truc spécial. C'est à chacun de quand il touche la quarantaine, de dire est-ce que je continue dans mes merdes ou est-ce que j'essaie au moins de m'améliorer un minimum.
D'ailleurs, je précise, parce qu'on a parlé de psychanalyse, l'idée c'est pas de faire la promotion de la psychanalyse, chacun trouve son truc, mais en tout cas c'est de s'occuper de soi, quoi.
Exactement, donc il y a plein de façons de le faire, hein. Donc, moi je ne juge pas tous les méthodes pour s'améliorer, franchement, si tu t'améliores, c'est genre gagner la loterie si on a la capacité de faire ça. Et c'est vrai que le psychanalyse, ça marche pas pour tout le monde, il y a plein de façons de le faire, donc je suis assez d'accord, il faut s'occuper de soi. Et je dirais, la plupart des artistes de ma génération que je connais bien, ils ont fait un truc à un moment comme moi j'ai fait. Peut-être un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard. Et je peux dire que ceux qui l'ont pas fait, ça va vraiment pas.
Non, mais vous rigolez, mais c'est attristant de voir certains gens qui n'ont pas pu dire « Ah, c'est, on a l'impression qu'ils ont choisi de rester dans leur merde, presque. Mmh. » Là, j'ai 53 ans, donc je connais pas mal d'artistes de ma génération qui touchent quarantaine, cinquantaine, et c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre ceux qui ont dit « Je vais faire un minimum de travail sur ça » et ceux qui n'ont pas fait. Et je parle pas juste de leur niveau de succès, parce que souvent ça, c'est aussi qu'ils arrivent pas à maintenir aussi le kiff de ce qu'ils font, et donc du coup même le niveau de réussite, ça peut être une espèce de métaphore pour ce truc qui pourrit leur vie. Mais même s'ils réussissent et que la réussite continue, des fois, on voit que c'est. Des fois, on voit physiquement que ça va pas.
Tu penses que c'est ce métier aussi parfois qui peut créer quelque chose comme ça, ou ça peut toucher tout le monde. C'est la vie.
Ce métier attire des gens qui vont pas bien. Non, mais c'est vrai. Pourquoi aller sur scène à part si t'as un problème à comprendre qu'est-ce que c'est l'amour. Si tu vas vraiment bien, tu vas pas vouloir monter sur scène. Je suis désolé, mais les gens qui montent sur scène, ils ont
quelque chose à combler.
Il
ouais.
y a un minimum de, I don't know if it's sociopathe, psychopathe. je sais pas ce que c'est exactement. Je vais pas parler dans de diagnoses, mais il y a un truc qui va pas quand on a envie que le monde nous reconnaisse. Après, il y a certains gens... tu vois, moi, je respecte beaucoup les artistes masqués parce qu'ils cherchent le succès sans le renommer. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Moi, je les envie beaucoup. Et ça m'a pris du temps de faire des petits progrès là-dessus, de pas confondre voilà, les applaudissements, même les bonnes chroniques, ou si un média parle de moi. À l'époque, je prenais ça comme un ratage. Si un média en particulier parlait pas de moi, ou on dit du mal de moi, mais ça va pas. That's a fucking problem. If ton mood et ton estime de soi dépend sur ce qu'un journaliste dit de toi, donc j'essaie d'avoir un peu d'amour pour la version de moi qui était comme ça et dire ça va pas, mais heureusement j'ai eu des crises, des pics de crise où j'ai dit ok, je suis obligé à essayer de faire des progrès là-dessus. Mais je suis pas guéri de ça non plus.
Mais c'est super intéressant ça, parce que tu parles de ça, de la façon dont des mauvaises critiques pouvaient te toucher personnellement, alors qu'on n'arrête pas de dire dans cette émission que c'est littéralement le problème avec le rap en France en tout cas, où les artistes justement n'acceptent pas la critique. Tu vois, c'est quelque chose qui est... Donc ça veut dire que peut-être que collectivement, les rappeurs français devraient aussi...
Faire une grande psychanalyse.
Ouais. Non, mais tu vois, c'est marrant parce qu'on en parlait, tu vois. C'est un sujet, un vrai sujet. Le nombre de médias qu'osent pas trop dire « Ouais, l'album de machin, il est pas terrible. » Parce que sinon, machin, il va mal le prendre et après, ils vont les blacklister et plus jamais, il ira chez eux, etc. C'est une réalité, tu vois, dans ce milieu-là, en tout cas, rap. Et donc, c'est d'autant plus drôle que...
Oh,
toi,
c'est génial que les gens aient tellement peur qu'ils vont pas dire du mal. C'est génial.
Mais ouais,
moi, je suis preneur.
Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui confondent la peur et le respect, en fait. Tu vois, et notamment justement dans un milieu musical où il y a quand même ce côté de vécu, le l'ode au gangstérisme et à tout ça, c'est quelque chose que tu trouves dans le hip-hop, tu vois. Et les gens, tu vois, le nombre de personnes qui ont regardé, qui font du rap, qui ont regardé Scarface et qui n'ont pas compris l'histoire du film, tu vois, pour moi, c'est... aussi important que tous les républicains aux États-Unis qui ont regardé La Guerre des Étoiles et qui n'ont pas compris le sens du film aussi, tu vois.
Qui est l'Empire, hein.
Ouais, ouais, bah l'Empire, c'est bien l'Empire. Au moins, c'était rangé. Non, mais tu vois, il y a un vrai truc, en tout cas, dans ce milieu-là, et c'est d'autant plus paradoxal et intéressant que toi, après tout ton tout ton voyage, en fait, même spirituel, et là où tu es, où maintenant tu te sens bien, eh ben, tu collabores principalement avec... des rappeurs. Je trouve ça super intéressant, en fait. Et peut-être qu'effectivement, tu pourrais les aider, eux aussi, à faire le voyage.
Oh, mais pouf.
Pour trouver
la paix. En même temps, moi, comme j'essaie de choisir mes collaborateurs autant qu'eux, ils me choisissent, il y a un truc naturel. Je suis quand même avec des rappeurs qui sont moins ce que tu décris, je dirais. Tu vois, les rappeurs avec qui j'ai les relations les plus proches, Souffrance, Dimé, Ziné, ces gens-là, la liste est longue, mais c'est des gens qui ont déjà fait des progrès, qui ne tombent pas. Ben, je bosse très souvent avec Jungle Jack, qui a fait aucune interview dans sa vie. Il ne fait pas de promo, lui. Mais 0-0-0. Donc, c'est clairement quelqu'un qui ne cherche pas ça. Mmh. Je bosse avec Kra, un rappeur masqué. Personne ne sait qui c'est, donc il n'a pas ce maladie de chercher le fame et tout ça. Donc j'ai la chance que les rappeurs qui me choisissent, que moi je choisis, Souffrance, c'est un mec très 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 posé. En plus, il a eu une carrière un peu numéro un. Après, il a pris quelques années off pour aussi faire un travail sur soi.
Oui, c'est ça, c'est des gens qui
il est revenu voyage, et c'est là où il a trouvé le succès. C'est post d'avoir fait le travail sur soi-même. Donc j'attire ce genre d'artistes, je crois, heureusement, maintenant.
Mais c'est ça que je trouve cool, effectivement, c'est que on a suffisamment d'historique avec le rap français pour justement avoir des gens qui se découvrent une carrière. On parlait de Samir Hamad, je pense à Isha, Limsa Dolnay, tous ces mecs-là aussi qui justement sont dans la trentaine et ont été peut-être à un moment donné, ont essayé de faire du rap comme avec la vision qu'ils avaient du stardom et de la fame, et en fait ils se sont rendu compte que pour eux ça n'a pas marché. Ils ont fait un petit hiatus, et puis quand ils reviennent, ben ils sont apaisés. Donc non, c'est chouette.
C'est très, très rare dans mes séances de rap que quelqu'un sort son téléphone pour faire une photo. C'est assez rare, et je dis ça, c'est très sain. Parce qu'on reste dans le moment pour faire la musique. La plupart sont dans des relations stables et sérieuses, avec soit des femmes ou des maris. C'est pas le film qu'on fait des fois. Au moins, mon expérience de mes collaborations avec les rappeurs, c'est très très loin du film que des fois les gens qui connaissent pas bien le milieu de l'intérieur vont même mon papa des fois il se demande qu'est-ce qui se passe dans ma séance avec des rappeurs, et je dis non, mais c'est le truc le plus sage. Ces séances sont très très sages, c'est très on est là pour je reprends le truc des dieux de la musique, parce que j'ai l'impression que ces gens là comme moi, ils cherchent vraiment juste avoir un bon moment musical. C'est vraiment ce qu'on cherche. Et après, s'il y a un truc qui arrive à un certain stade et on dit, oh, on va sortir ce morceau. Mais j'ai peut-être fait 2-3 séances où je me suis retrouvé un peu plus dans ce film mauvais, où il y avait beaucoup de photos et beaucoup de, on se vantait beaucoup, et tout de suite je me retrouve pas dedans et je vais pas refaire la séance avec ces gens, même s'ils sont connus. Ou des fois je vois aussi qu'ils sont juste là à dire, ouais, le pianiste fait des accords pour nous, et je dis ben non, c'est pas ça non plus, je suis là en tant qu'artiste avec vous, de faire un morceau. Donc c'est pas tout le temps que ça marche tout de suite, bien sûr, mais avec les gens avec qui j'ai bossé plusieurs fois, on peut dire, c'est des gens qui ont fait ce travail sur soi, et puis, ça c'est sûr.
Et puis, Daz, que tu pointais, on peut malheureusement le retrouver dans plein d'autres milieux que le rap aussi. T'en as déjà parlé en interview, l'expérience avec Charles Aznavour, bon, elle était un peu rude, hein, typiquement.
Voilà, Aznavour, c'était comme ces rappeurs-là qui veulent vivre dans un film de Scarface tous les jours. Lui,
ah ouais?
Ben ouais.
Attends, Charles Aznavour, hein?
Ouais.
Ah ouais, c'est...
Ben on peut jouer le morceau, Gangstavour, de French Kiss.
Carrément,
ça c'est
Tout est dit, tout est dit dans ce morceau.
Alors en fait, oui, parce que ça c'est un de tes morceaux, hein, qui n'est pas avec Charles Aznavour, mais où tu parles de l'expérience que finalement c'est pas sorti d'ailleurs. Ce que vous avez
Moi, je lui ai donné le surnom Gangstavour, après d'avoir bossé avec lui pendant 3 semaines en 2003. Là, je raconte tout dans le morceau.
Eh ben écoute... C'est parti, on s'écoute un extrait.
J'ai travaillé quelques semaines pour Charles Aznavour. Il avait déjà 80 ans, il était quasiment sourd. Quand il est arrivé au studio la première fois, il a dit, mais il n'y a pas d'ascenseur ici, j'ai un ascenseur chez moi. Gangstavour, Gangstavour. Je l'ai observé dans le couloir à un moment. Il chantait pour sa petite fille si tendrement. Je n'oublierai jamais les paroles de son chant. C'est que pour toi que grand-papa chante gratuitement. Gangstavour, Gangstavour. J'en ai encore des anecdotes sur lui. Mais ceci n'est qu'une interlude, un petit morceau gratuit.
100% facts. Ça, c'est sûr. Non, mais des fois, on était là à bosser
Et juste, tu vois, dans le silence, pendant qu'on bossait quelque chose pour le mix et tout, il a dit, vous voyez ce montre ? C'est très cher. Non, mais donc là, ça c'est pas un rappeur avec qui j'ai envie de recollaborer. Mais heureusement, il n'est plus là.
Bon, bif avec Charles. Et d'ailleurs, à côté de ça, tu as trouvé aussi qu'il avait un talent, enfin, il y a des trucs intéressants aussi dans votre collaboration.
Oui, mais quand l'expérience n'est pas. C'est pas quelque chose que j'aurais envie de répéter. Ben ouais. Donc, bien sûr, il y a un talent. Mais le talent, c'est pas assez. Je cherche la connexion.
Ouais, après, des gens comme ça, oui, c'est des monstres sacrés. Parce que je pense qu'il y a plein d'autres artistes avec cette figure-là en France où, en fait, il y a un genre de. Personne va dire le truc, tu vois. On va tous dire, ah oui, quel homme formidable, machin. En fait, il n'y a personne qui va dire qu'il a eu une mauvaise expérience parce que potentiellement, ça peut lui retomber dessus.
Tu as même dit des trucs que je trouve intéressants. C'est pas seulement dire que c'était un connard. Mmh. C'était aussi dire qu'il était dans une mentalité de revanche, de hustle. Encore
surtout
même,
ça,
même à cet âge-là,
même
quoi.
À 80 ans, ouais.
Et alors que le type avait tout réussi, il était encore dans la position du mec qui débarquait de nulle part à la base, petit immigré, etc.
Il n'a pas fait ce travail sur soi-même, c'est sûr. C'est sûr. Il a resté dans le même vengeance. Où il a confondu le succès capitaliste avec son valeur en tant qu'être humain. Non, mais c'est horrible d'imaginer à 80 ans d'être comme ça. Mais j'ai tellement de chance que, en pas forçant les collaborations, quand ça se fait naturellement, je dirais 9 fois sur 10, ça se passe bien. Parce qu'on se renifle assez longtemps, mais on reconnaît quelque chose par instinct et ça passe. Mais bon, moi j'ai travaillé sur des albums pour La Roue. Tu vois ce groupe, La Roue, ça s'est mal passé. Ah. Et donc ça tombe à côté. C'est même pas que c'est mal passé. J'ai fait mon boulot. Je suis sur 2-3 morceaux. C'était en 2010 ou je sais pas quoi. Mais je peux compter sur un seul main les trucs qui sont comme ça, où ça s'est pas vraiment fait de la bonne manière et tout. Et même si le truc sort, j'en parle pas. Et bizarrement, les gens ne le repèrent pas. Ils vont jamais dire, ah ouais, j'ai kiffé trop ce que t'as fait avec La Roue ou je sais pas quoi. Et même, un peu dans le rap, j'ai fait quelques séances là ces derniers 2 ans où je dis, je préfère oublier, c'est rien contre eux, mais c'est pas pour moi. Et donc, heureusement, j'en ai assez de collaborations géniales qui se feront naturellement où je retrouve ce truc de connexion, d'exubérance et que le résultat soit musicalement bien. C'est vraiment ça, c'est le sommet quand il y a un truc qui sort. J'ai quand même fait des séances avec des rappeurs où ça s'est très bien passé. On a passé un bon moment, mais rien ne sort. Peut-être jusqu'à là, peut-être ça va sortir plus tard, on sait jamais. Mais...
C'est-à-dire que tu préfères, enfin tu préfères, oui c'est logique après en même temps, mais c'est-à-dire que le moment, enfin la séance où la connexion se passe, mais malheureusement rien ne sort, pour toi c'est mieux qu'une séance où c'était pas ouf, mais au final il y a quand même un titre qui potentiellement peut marcher.
Évidemment, mais ça c'est aussi le luxe d'être dans une position de ma carrière où je suis, j'ai un peu fait mes preuves à moi-même, j'ai un business qui marche plus ou moins bien et donc je suis pas désespéré pour que chaque truc que je fais sorte parce que j'ai besoin soit du renommée, soit d'une récompense financière. Mais ça, c'est vraiment un luxe. Hein, c'est peut-être pas pareil pour quelqu'un qui débarque dans la musique, où ils sont un peu obligés aussi à souffrir peut-être des expériences où ils sont peut-être pas traités à 100% avec le plus de respect possible, mais ils sont obligés quand même à subir ça pour peut-être passer à autre chose, pour avoir ce luxe que j'ai plus tard dans leur carrière. Donc je comprends si les gens sont un peu obligés à accepter des compromis, soit artistiquement, soit même personnellement. Moi, je me mets souvent dans la position de dire, imagine que je suis un musicien qui débarque à 20 ans maintenant avec l'industrie de musique comme elle est maintenant par rapport à celle que moi j'ai débarqué. C'est vrai que je me demande comment ce serait possible de débarquer maintenant.
En fait, on est déjà passé là un peu sur la dernière période jusqu'à aujourd'hui. Donc après cette fameuse psychanalyse, on a écouté là un extrait de French Kiss. D'ailleurs, le morceau avec Tequila Tex, avec lequel qu'on a écouté plus tôt dans l'émission, est aussi issu de cet album. Il y a eu ensuite un an après à peu près l'album Gonzo, où là aussi tu te remets au rap, cette fois plutôt en anglais. Et puis en fait, c'est
Un autre album qui a très peu marché. Voilà, j'en ai plein comme ça. Soft Power, Unspeakable, Gonzo. C'est souvent les albums rappés. Et je le sais, je suis pas aveugle, je vois les commentaires. Quand je sors un morceau rap, beaucoup de gens, Shut Up and Play the Piano. D'ailleurs, c'est le titre d'un documentaire sur moi qui s'appelle Shut Up and Play the Piano.
C'est très intéressant, je le conseille, je l'ai regardé.
Je sais que c'est bizarre pour plein de gens qui se disent le rap, ça doit être ça. Pourquoi ce mec rap? Pourquoi il peut pas se contenter, être content avec sa carrière de pianiste? Je comprends, mais
je ne suis pas capable à me forcer. Tout ce qui a marché, ça a marché parce que j'ai suivi mes envies. Même si c'est que mes envies et qu'il y a très peu de gens qui partagent ces envies. Mais je ne peux pas faire autrement.
Et d'autant plus que sur l'album Gonzo, par exemple, ce n'est pas un album rap dans le sens où il y a des morceaux rappés, mais il y a aussi des morceaux de piano solo.
Oui,
il y a,
oui,
il y a aussi des morceaux. Il y a des trucs, enfin, en fait, c'est d'ailleurs, je trouve, c'est assez représentatif de ce que tu es, d'une forme de carrière. C'est une synthèse, en fait, plutôt.
Kaléidoscope.
Qu'un pur album rap, quoi.
Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Ça te chagrine, d'ailleurs, que cette synthèse, c'est peut-être d'ailleurs ce qui te ressemble le plus. Enfin, peut-être pas cet album, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un truc qui, voilà, qui synthétise pas mal ta carrière. Ça t'embête que c'est pas ça qui connaissent le plus de reconnaissance?
Non, parce que ça va toujours mener à autre chose. Et moi, j'aime bien, en rétrospective, moi, je kiffe un peu me mythologiser un tout petit peu. Ouais. Et donc, comment on peut avoir une belle histoire si c'était que des réussites? C'est... Mmh. Tu vois,
il faut des hauts et des bas pour
ouais.
garder de l'intérêt.
Tu vois, moi, je suis très bon pote avec Sofiane Pamart.
Ouais.
Mais je vois sa carrière, c'est que du réussite. Je dis, je sais pas, qu'est-ce qui va arriver? Et je le connais très très bien et je respecte énormément ce qu'il fait et tout ça. Mais je vois ça en tant que son ami et observateur. Et je dis, oh, c'est bizarre, tout marche. Comment c'est possible?
Inquiète-toi, attention à toi.
C'est comme parler une langue étrangère pour moi. Je dis, je ne comprends pas. Comment on peut passer d'un réussite à l'autre? Moi, j'ai tellement eu des hauts et des bas. Mais je peux dire que je suis toujours obsédé par ce que je fais. Donc, quand je fais un album de rap orchestral, je suis obsédé par ce concept. Et je vais jusqu'au bout de le faire. Et après, on verra si ça marche. Mais solo piano, je l'ai fait dans le même esprit. Et regarde, ça marchait. Ivory Tower, je l'ai fait d'une même manière et ça a marché. L'album Noël, il y a beaucoup de gens qui disaient « Album de Noël, what the fuck ?» Et bizarrement, je l'ai enregistré avant la pandémie, mais ça sortit le premier Noël du pandémie en 2020. Et quelque part, j'avais fait l'album ultime de Noël pour la pandémie parce qu'il y avait plein de familles qui pouvaient pas se voir. Mmh. Et donc, ils avaient envie d'un album Noël très mélancolique, très intime. Donc, j'ai eu quelque part la chance.
Le timing.
La vision, je sais pas, combinaison des deux. Et l'album a cartonné. Mais tous les Noëls, je passe de 1 million d'auditeurs mensuels à 2 millions grâce à cet album. Après, ça redescend à mon million de base et tout. Génial. Mais ça double pendant 3 semaines. Juste parce que c'est Noël, c'est saisonnal. Et donc, en rétrospect, je dis, ah, je suis un génie de marketing.
Il m'a fallu une pandémie, mais OK.
Mais ça aurait pu également vraiment pas marcher. Donc, voilà, il faut juste que je suis chaque envie jusqu'au bout. Et ça revient à mon projet de prédiction qui n'est pas un album, mais qui est Zilch. Et pareil, on était à une projection il y a quelques temps où on a pu voir comment un public réagisse à les épisodes de Zilch. Et je ne savais pas ce que ça va donner. Et j'étais très, 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 très stressé. Mais là, j'ai entendu des gens qui rigolaient. Après, ils étaient hyper silencieux et très focus sur les moments intimes de la série. Et je me suis dit, OK, au moins, je suis allé jusqu'au bout de mes envies. Et dans cette pièce, ce soir, au moins, j'ai vu que mon instinct était bon, qu'il y a des gens qui veulent voir ça. Après, si ça cartonne, là, on revient plus à un truc de est-ce que c'est le bon timing? Est-ce qu'on aura la chance qu'un moment va devenir viral, qui va mener les gens à voir des séries? Ça, je ne contrôle pas, je ne sais pas. Mais toutes les leçons que j'ai apprises de toutes ces périodes, parce que tu m'as demandé surtout qu'est-ce que j'ai appris de chaque phase, ben c'est vraiment juste... c'est un truc bête qui se répète tellement quand on demande à des artistes qui ont des carrières intéressantes, on dit c'est quoi le secret de tout ça? Et c'est vraiment de rester intéressé. C'est très cliché, mais moi je l'ai vécu. Et les peu de temps que j'ai fait de trucs un peu plus calculés, surtout au début de ma carrière, où j'ai dit ah, il faut que je fasse de l'indie rock parce que c'est ça que les gens font, ou il faut que je fasse ça parce que c'est ça que les gens attendent de moi, ben c'est sûr que ça va pas marcher. Mais si tu lance un petit bouteille à la mer en disant « Je vais faire un album de rap orchestral. » Je garde les doigts croisés. « Est-ce que c'est celle-là qui va cartonner ?» Oh non. Beat total. Peu importe.
Tu voulais le faire et tu l'as
fait. Je cherche la prochaine obsession. Et une fois que je le trouve, je me mets dedans. et j'y vais à 100%. Et donc, des fois, quand il y a les succès surprises, on les savoure tellement plus. Donc, et je sais que c'est facile de dire ça au bout de 30 ans de carrière, avec peut-être une aisance financière que les jeunes artistes, ils n'ont pas. Et ils peuvent facilement dire « easy for you to say ». Toi, tu as le luxe de suivre tes obsessions. Mais quand je n'avais pas d'argent et quand je démarrais, et je gagnais à peine ma vie en faisant du piano dans des restaurants à Berlin, ben, je suis allé jusqu'au bout de ce que je voulais faire avec Peaches à l'époque, et j'ai appliqué ces leçons, même quand ça ne marchait pas au tout début, avec le bon résultat. Donc ce n'est pas juste facile de dire ça d'une position de luxe, parce qu'on peut faire ça à n'importe quel niveau du succès. Mmh. Des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus connus que moi, ils ont besoin de rester intéressés. Et les gens qui démarrent, qui n'ont même pas 2 francs à leur nom, ils doivent aussi rester intéressés. Parce que sinon, le truc ne marche pas. Sinon, les dieux de la musique ne sont pas contents. Mmh. Et ils vont mettre un sortilège sur toi. Alors, si tu n'es pas intéressé.
La transition est parfaite. Ça fait 2 heures qu'on discute. On va dépasser un petit peu. On va quand même essayer de faire un peu plus rapide. Les dieux de la musique. Mmh. T'en as parlé. En fait, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est ta conception fondamentalement de qu'est-ce que c'est que la musique, quoi. Tu utilises cette expression, elle te vient d'où ? Et qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, les dieux de la musique ? C'est des codes ? C'est des règles ? C'est autre chose ?
Non, les dieux de la musique, pour moi, c'est de toujours comprendre que la musique a démarré dans des petites communautés anciennes, ce qu'on appelle folk music en anglais. Ça veut dire que c'est la musique qui a une utilité pour marquer les mariages, les circoncisions, les enterrements, les entrées des rois, des tribus. Partout dans le monde, il y a la musique qui existe pour une raison sociale. C'est pour créer du communauté, c'est pour marquer des événements qu'on partage. Et tout ça, ça existe sans égo du musicien. Tout ça, ça existe surtout, c'est bien avant le capitalisme et l'industrie de musique. Et il faut jamais oublier ça. Je sais que c'est très riche de quelqu'un comme moi de dire ça, parce que je suis un musicien qui est largement basé sur une espèce de parti pris, voire limite arrogance, limite je suis toujours sûr ce que je dis, avec des opinions très fortes, polémiques, que j'exagère pour les faits, avec beaucoup d'ego trip dedans. Je me suis perdu dedans avant mon psychanalyse, et après quand je suis ressorti, j'ai dit au moins que je garde au moins un petit pourcentage de mon activité où je me force à penser qu'est-ce que c'est la musique bien avant tout ça, qu'est-ce que c'est la musique avant que j'ai vu ça comme une façon de trouver ma place dans la société, que je puisse gagner bien ma vie, que je puisse retrouver une estime de soi auprès du regard des autres. Bien avant ça, la musique, c'était un truc qu'on partageait. Et donc, j'essaie c'est pas facile, mais j'essaie de toujours repenser à ça. Ceci. Donc, les dieux de la musique, c'est plus un truc aspirationnel. Je veux pas dire que je le pratique tous les jours. Bien au contraire. Mais, comme les autres religions, s'il y a un côté positif de la religion, c'est que ça reste une espèce d'ombre sur nous.
C'est un héritage, les dieux de la
musique. Oui, quelque part un héritage, mais surtout c'est un truc où on dit, on est conscient qu'est-ce qui est la meilleure façon de faire. Et on sait qu'on ne va jamais être à l'auteur de la meilleure façon de faire. On sait qu'on ne va jamais être à l'auteur de ce qui prêche les religions, ou bien, dans mon cas, cette religion de la musique, ou cette croyance dans le fait que de faire de la musique sans égo, c'est la meilleure façon de faire.
Pour rassembler, pour oui. Vivre des moments.
Que la musique qu'on fasse soit utile. Je le pratique très peu, mais j'essaye. Donc je garde ça en tête, je le répète comme un mantra, en sachant que je ne sois jamais à l'auteur des dieux de la musique. Parce que je suis trop foiré dans ce truc de capitalisme d'ego, sûrement. Moins qu'avant, mais toujours dedans. Mmh. Tu vois, moi je dirais que l'eau était là avant, et là peut-être je suis là.
C'est des redescendu.
Je peux souffler un peu. Je ne me noie pas dedans. Mais je suis bien dedans toujours. Mais si je garde ça au moins comme un but lointain et de me faire repenser de temps en temps, attends, là, je commence à me perdre un peu dans mon truc de stratégie, de planifier des trucs, d'être trop conscient de ce que les gens pensent de mes projets. Attends, n'oublie pas les dieux de la musique. Donc ça fait une espèce de truc, je peux revenir périodiquement à me dire, ok, le but c'est loin, mais je vais essayer de au moins prendre quelques pas vers ce but, même si je suis pas à l'auteur.
Est-ce que c'est aussi un peu dans cette même lignée d'héritage, de sens, d'utilité de la musique, etc., que tu as beaucoup, alors déjà que tu as beaucoup enseigné, beaucoup été dans la pédagogie, essayé de transmettre. Je pense que, enfin, j'y vois un lien en tout cas, parce que là l'utilité elle est claire. Quand tu es un musicien avec un certain savoir, essaie de le partager avec les autres. Et ça, tu l'as fait depuis le début de ta carrière. Zilch, d'une certaine manière, c'est encore dans cette continuité. Mais en fait, tu l'as tout le temps fait. Tu as fait des masterclass, tu as travaillé à la radio, avec Apple, avec la BBC. Tu as fait des trucs, toujours de la pédagogie autour de la musique. Et ça va même sur la question du goût, par exemple. Parce qu'on parlait d'Enya, de ce bouquin, où tu questionnes la question du goût, du mauvais goût, des plaisirs coupables, etc. Il y a deux livres, 2017-2020. Je me suis dit que c'était peut-être lié les deux. J'ai pas tout à fait compris.
Il y en a un seul. Il y a un seul livre qui est sorti en 2019. Oui.
Ah, parce que c'est le titre en anglais où il y a Enya qui apparaît, alors qu'en français, il n'y a pas eu la référence à Enya. Il y a un truc comme ça, non?
Ouais, en fait, l'éditeur français n'a pas cru que Enya n'est pas assez connu pour que les gens vont comprendre ce que c'est. Donc ça s'appelle Plaisir non coupable.
Entre parenthèses,
exactement.
Donc c'est bel et bien
anglais,
même.
C'est quoi?
C'est Enya, A Treatise on Unguilty Pleasures.
Ouais, c'est ça.
Ouais, d'accord.
Ouais, et je dirais, le plus important dans tout ça, le partage de la musique. Par exemple, quand on a écouté You Snooze, You Lose, plutôt dans le podcast. Après, j'ai juste dit tout simplement, hey, vous savez que si vous avez apprécié le morceau, si vous avez l'apprécié, aussi, je peux vous dire un fun fact. Le fun fact, c'est que les notes sont tirées de l'ouverture du symphonie de Shostakovich. Pour moi, ça fait que quelqu'un qui écoute peut se retrouver un peu plus dans le morceau, qui peut se dire « Ah, j'ai l'impression que le rideau est tombé un tout petit peu plus que d'habitude et que je sais comment pense un musicien sur un truc. » Après, s'ils n'ont pas apprécié le morceau, s'ils disent « c'est pas ma cam, you snooze, you lose », ils vont clairement dire « je m'en fous si c'est Shostakovich ou quoi ». Donc, c'est ça le principe du partage de la musique, d'analyser, de faire un masterclass sur Get Lucky de Daft Punk à la radio. C'est de dire « si vous kiffez Get Lucky, je ne vais pas vous expliquer pourquoi Get Lucky est un tube. Jamais de ma vie, je dirais qu'il y a une formule pour les tubes. Parce que s'il y avait une formule pour les tubes, tout le monde les feront. Et évidemment, c'est assez rare, un vrai tube. Mais si on peut baisser le rideau un tout petit peu sur ce qui se passe dans Get Lucky, je dis, ah, il y a un truc avec, ça s'appelle le parallèle mélodie, c'est quand il y a le truc de base, tu vois, je peux le faire très très vite, là,
ouais,
pour
vas-y,
vous.
Montre-nous.
Tu vois, le mélodie, ça fait... Oui. Attends.
Vas-y.
Come too far, da-da-da, da-da-da. Et en fait, la basse fait... En fait, ça fait exactement, ça grimpe exactement pareil, mais juste dans une autre partie du registre. Et ensemble, ça fait... Donc c'est parallèle, on l'entend. Mmh. Quand je l'explique comme ça, je dis, ah ouais, ok, la basse va dans exactement le même sens que la mélodie, mais ça commence sur une autre note. Mais finalement, c'est comme des rails de train. C'est comme des voies de train qui sont parallèles tout le temps. Et si tu aimes Get Lucky, peut-être tu vas dire « Ah, ok, j'ai compris une technique qu'ils ont utilisée. » Ça ne veut pas dire que si toi, tu fais le parallèle motion, que tu vas avoir un tube pareil. Donc, des fois, on dit « Pourquoi tu décortiques les tubes ?» Le tube, c'est un truc de magie. Et je dis « Bien sûr, c'est un truc de magie. Je ne suis pas là en train de dire que toi aussi, tu peux faire un tube. Si moi, je savais faire des tubes, je l'aurais fait. Je n'ai pas fait de tube, moi, parce que je ne sais pas faire. » Voilà.
Enya, elle en a fait. Alors, pourquoi tu as pris cette figure d'Enya, qu'est-ce qui t'a
déjà je kiffe Enya trop, vraiment j'écoute ça dans le bain pour me reposer, mais elle représente quelque chose parce qu'elle a une réputation dans sa musique pour être très soporifique. On dit soporifique en français, soporifique, des musiques pour les milfs. Tu vois,
très bon album, très bon nom d'album.
Yoga music, je sais pas quoi. Ouais. Et en même temps, ce que les gens sachent pas, c'est que Enya c'est un punk dans sa gestion de carrière. Elle ne fait pas de tournée, elle ne fait pas de promo. Elle fait un album tous les 10 ans et puis elle smash tous les records de vente. Donc ça veut dire que quelque part, c'est comme un rap, c'est comme PNL. Tu vois, c'est un punk rappeuse dans sa façon de faire sa carrière. Mais la musique elle-même a tellement un truc qu'on associe avec un truc consensuel, pas punk, doux, soft, pas expérimental. Donc, je suis très intéressé par ce contradiction entre sa gestion de sa carrière et la musique elle-même. Parce qu'on a peut-être on a tendance de dire non, mais il y a un groupe de punk expérimental, ça s'entend que ce sont des punks. Mais après, tu vois, ils sont signés chez un majeur et c'est des fils de riches et tout. Donc, pareil, il y a encore une contradiction entre un truc qu'on projette sur comment la musique sonne et comment la carrière, la gestion de la carrière. Donc, moi, je dis souvent, on peut pas vraiment juger les gens sur les choix qu'ils ont faits. Ce qui est plus intéressant, c'est les choix qu'ils n'ont pas faits. Ou, plus clairement, où est-ce qu'ils ont dit non ? Enya a dit non à plein de règles de l'industrie musicale. Et c'est à chaque artiste de choisir où ils vont dire non. Le problème, c'est que quand on dit non à quelque chose, ça ne se remarque pas. Et donc, souvent, on est juste jugé sur le public et leur réaction à Enya. On juge Enya en tant que musique pour MILF. Pourquoi ? Parce que c'est des MILF qui l'écoutent, c'est vrai.
En soi. <c'est... rire>
Et moi, j'ai un goût de MILF.
Ouais, très...
it turns out.
Quel est ton morceau préféré, Enya ? Ou est-ce que tu en as un que tu aimes ?
Only Time.
Only Time. Eh bien, écoute, c'est comme ça, nos auditeurs qui ne connaissent pas Enya.
Moi, je vais planer là.
On va se faire un petit kiff aussi. C'est parti.
Est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est vraiment si loin du Vaporwave ? Est-ce qu'on est vraiment si loin du Beach House ou Lana Del Rey ? Des trucs qu'on dit, c'est hyper crédible, c'est des artistes sans compromis et tout. C'est même musicalement, je trouve ça... C'est hyper moderne.
Je suis d'accord.
Et en même temps, c'est Madame Rêve d'Alain Bashung.
Ouais.
Avec le pizzicato, là, tu vois.
Écoute, on continue.
Allez, allez, allez.
Cette musique m'apaise et donc elle a une utilité. Je n'aime pas pour les raisons de dire que Enya, c'est une artiste forte avec... Moi, je ne veux pas l'évaluer avec les mêmes critères que si j'écoute un nouvel album d'un artiste qui est censé... De Rosalia. Et dire, qu'est-ce que Rosalia va faire maintenant? Parce que c'est une artiste hyper moderne de notre temps qui casse tous les codes. Quand on écoute Enya, on ne pense pas comme ça. Soit ça nous apaise, soit ça ne nous apaise pas. Donc moi, j'aime bien, c'est le côté utilité de musique. Cette musique plaît aux dieux de la musique, sans doute, parce que ça a épasé des millions et des millions de personnes. Peut-être dans des moments vraiment stressés. Parce que, en plus, ce qu'elle raconte dans les paroles, c'est hyper rassurant aussi. C'est une berceuse. Et une berceuse, c'est peut-être, j'en parle dans mon livre, je commence avec le concept du berceuse, c'est une des musiques les plus utiles du monde parce que quand on est bébé, en fait, pour faire endormir les bébés, il n'y a pas plus intime, pas plus utile pour un être humain qui vient d'être né de comprendre ce cycle de repos, d'action. Et le berceuse permet de passer d'un mode de vie à l'autre. C'est hyper utile. On est dans des trucs hyper heavy, en fait, avec la berceuse.
Est-ce que tu avais écouté, on avait fait un épisode avec un neuropsychologue, Hervé Platel, qui a étudié le cerveau des musiciens et des gens qui écoutent la musique. Et il avait dit un truc qui m'est resté, j'en discute souvent avec les gens d'ailleurs. Quand je présente le podcast aussi, je parle de cet épisode parce que je le trouve hyper intéressant et je donne quelques exemples. Et on lui avait demandé à Hervé, est-ce qu'il y a des musiques universelles ? Est-ce que, parce qu'on parlait un peu des réactions du cerveau, de comment les gens perçoivent les émotions à travers la musique, etc. Et globalement, il ressortait qu'en fonction des cultures, ça pouvait être très varié, etc. Qu'il n'y avait pas vraiment d'universalité, de tel morceau qui plaît à tout le monde, etc. Il m'a dit, il y a un truc par contre que les études ont globalement observé, c'est les berceuses, c'est les chants ce qu'on chante au bébé. Déjà, il y a beaucoup de communs, c'est souvent des mélodies extrêmement simples, etc. Et toutes les cultures partagent cette approche globalement de la mélodie pour les bébés et pour l'effet de les endormir, de les apaiser, etc. Et disait, si on doit trouver un truc à peu près universel dans la musique, c'est certainement là que ça se joue. Et ça, ce que tu dis,
Enya avait compris dès le départ aussi, putain. Mais tu vois, je trouve que voilà, Enya, c'est les gens aiment bien se moquer gentiment et tout. Il n'empêche que ce morceau-là, tu vois, moi, je l'ai jamais écouter consciemment de ma vie, et pourtant je le connais, tu vois.
Mais donc ça fait quelque chose là ou non?
Non, mais je kiffe, mais en fait c'est pour moi c'est ça fait tellement partie de la vie en fait que j'ai pas besoin d'écouter l'artiste pour savoir ce qu'elle chante. Et là quand la voix arrive, je sais exactement à quel moment elle démarre, alors que vraiment je n'ai jamais cherché Only Time d'Enya de moi-même sur les plateformes.
C'est fou.
Et j'ai pas d'album à la maison, tu vois.
C'est là où dans la, tu dis l'impact culturel.
Ben ouais, quoi. En fait, c'est-à-dire que en fait, c'est pervasif, c'est là, en fait. C'est, tu vois, ça pénètre toutes les vies, y compris celles de gens qui se disent « Ah, ben, je suis trop cool pour écouter des trucs comme ça », tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Donc de la musique de Milf, oui, mais aussi de la musique de Filf.
Celle-là, je me...
Eh oui.
Peut-être qu'on peut... Ce sera le dernier sujet avant qu'on passe aux recommandations. Parce que tu as évoqué aussi...
Je crois que c'est DILF. Juste
DILF, DAD.
Je corrige.
Okay. Moi, je dis FATHER.
Non, mais il faut dire DAD parce que FILF, c'est trop proche du mot FILF.
Ouais, moi, j'aime bien.
Ce qui est... Ah ouais, t'aimes bien.
Non, okay.
Okay. Ah, je suis un mec du hip-hop, moi.
Très bien, ok.
Who's being a filthy little FILF?
Voilà. Filthy FILF. Ouais, c'est pas mal, ça, filthy FILF.
Ouais, ce dernier sujet. Bon, il aurait pu en avoir plein d'autres. Hein. Mais
moi, je prends un PILF pour pianiste.
Ah, ok, ça marche aussi.
T'as dit qu'Enya, tu l'as trouvée intéressante aussi pour son modèle industriel, entre guillemets. Comment elle approche le business de la musique. Voilà, c'est une artiste, c'est son métier. Comment elle a géré tout ça. Toi, tu disais que tu as monté ta propre structure 2009, c'est ça, un truc comme ça.
Ouais. Ouais.
Ça a été très vite une option de se dire, oula, faut que je prenne en main mes propres trucs, que je me produise moi-même. Et de manière générale, je fais le grand package comme ça un peu. Est-ce que tu trouves que ça a été simple pour toi de naviguer, je parle vraiment là des coulisses, du business, de l'argent, etc., dans l'univers de la musique. Ça a été un truc simple pour toi? Ça a été carré tout de suite? Ou waouh, t'as navigué, tu t'es planté?
Ben, disons que mon papa, qui est né en Algérie en tant que pied noir hongrois, la famille était en fuite de la deuxième guerre mondiale, qui se retrouvait au Canada avec pas deux sous à leur nom. Il a tout construit. C'est un mec qui est devenu une espèce de self-made businessman. Et il aurait bien voulu que je suis un peu dans ses pas. Et quand j'ai voulu être artiste, bien sûr, je lui ai dit non, moi, je rejette tout ça. Le capitalisme, c'est pas pour moi. Je veux être artiste. Je veux faire des choses pour des bonnes raisons et tout. Et je croyais que j'ai vraiment fait une rejection totale de sa façon de voir les choses. Fur et à mesure, j'ai observé que j'avais un talent pour ça. Et que quand il y avait des moments où je pourrais réagir d'une manière ou l'autre, j'ai su que cette manière de faire va être plus prudent côté business. Et du coup, je savais comment m'entourer. J'avais une manageuse avec qui je viens d'arrêter le travail. Pas parce qu'on s'est mal entendu, mais parce qu'elle a atteint la soixantaine. Mais j'ai travaillé avec elle depuis 2000.
Ah oui.
On a fait 25 ans ensemble. C'est elle qui m'a convaincu en 2009 de tout prendre en main en indépendance totale. Et elle m'a toujours dit, quand j'atteins la soixantaine, je vais retracer mon rôle. Et là, elle est toujours en consultante, mais l'équipe est en plein changement. Mais ces 25 ans, j'ai vraiment découvert aussi que en binôme avec elle, que finalement, j'ai absorbé plein de leçons de mon papa, finalement. Et finalement, je vois mon papa un peu comme un rappeur. Parce que pour lui, c'était « Get rich or die trying ». Je sais. Et donc, moi, j'ai eu le luxe de grandir sans avoir le même pénurie que lui. Mais c'était juste à un degré près. Et donc, du coup, il m'a obligé à par exemple, avoir des summer jobs et tout ça, et des boulots pour gagner de l'argent dès que j'ai 13 ans. J'étais en livraison, des trucs de pharmacie ou travailler dans un truc d'alimentation. Et même, ils nous ont encouragés de faire des petits trucs, des trucs un peu entrepreneurial. Et ce que moi, j'avais compris, d'être entrepreneur, c'est pas une question juste de dire que tu prends le risque et tu investis de l'argent dans une idée. Il faut suivre les obsessions. Zilch. Moi, j'ai financé les premiers deux épisodes moi-même pour après arriver à un stade où on amène ça à Grunt, que Grunt accepte le coprod et qu'il trouve des subventions dont eux, ils ont que accès en tant que
médias
que les artistes n'ont pas accès. Finalement, on s'est remboursé 50% des coûts de produire 6 épisodes de Zilch. L'autre 50%, c'est toujours sur moi, toujours pour moi. Je suis entrepreneur parce que j'ai envie de vivre mon obsession. Si on n'a pas l'obsession, c'est pas prudent d'être entrepreneur. L'obsession, l'idée, précède l'investissement. Je crois que c'est ça que j'ai pris de mon papa. Et donc, du coup, finalement, passer 10-15 ans à dire « Non, je suis pas comme toi !» Finalement, je suis beaucoup plus comme lui que je croyais. Et heureusement. Parce que, bien sûr, je vois plein de gens avec du talent qui ont une bonne éthique de travail et que peut-être ils n'ont pas ce truc ou ils n'ont pas eu le bon modèle pour comprendre à se détacher de leurs émotions dans les interactions, qui ne savent même pas écrire un mail à un autre artiste ou ils ne savent même pas comment se conduire dans un rendez-vous avec un partenaire potentiel.
Et toi, tu l'avais, ça ? C'était naturel, c'était aussi ton éducation qui a fait que tu étais à l'aise avec tout ça, quand tu avais des interlocuteurs ?
Peu à peu, je suis revenu à ça. Comme j'étais en rejection totale de mon papa, j'ai presque fait l'inverse pendant très très longtemps. Moi, j'ai fait des rendez-vous chez des maisons de disques, genre Polydor, rue Fossé-Saint-Jacques, là, et je suis allé avec le PDG, je commence à rouler en joint sur son desk, tu vois, pour faire exprès de pas être comme mon papa.
Pour provoquer un peu.
Voilà. Mmh. Après, peu à peu, j'ai compris d'autres façons de faire sans se compromettre. Parce que qu'est-ce qui est le but ? Le but, c'est que je m'approche à mes obsessions. Le but, c'est que je puisse élargir mon public. Le but, c'est que je fais les projets que j'ai envie. Si j'ai envie de faire un truc avec un orchestre, que j'aurai les moyens de le faire. Si c'est ça le but, il faut se séparer des émotions. Et il faut mettre à la place de l'autre. C'est ça le sens entrepreneurial, c'est avoir une obsession, un but, et après voir, identifier qui peut nous aider, aller les voir et se mettre à leur place. Pourquoi ces gens-là ? Il y avait très très longtemps où je croyais que j'avais le droit d'être aidé. C'est pareil que quand je parle de l'énergie qui va dans les deux sens, que j'ai appris que moi je mangeais tout, je prenais toute l'énergie pour moi. Donc je faisais un rendez-vous et je dis, bien sûr cette personne veut m'aider, parce que look at me, I'm amazing, you know? Donc give me what I want, donne-moi l'avance, donne-moi l'accord, donne-moi le droit de faire le truc. Et très vite j'ai compris aussi, non, il faut se mettre à la place de l'autre. Pourquoi est-ce qu'eux, ils devraient investir dans le projet dont je leur parle? Et c'est ça le truc entrepreneurial. C'est d'ailleurs identifier l'obsession. Deuxième partie, identifie les gens que tu as besoin pour réaliser ce but. Et après, quand tu les vois, ces gens, se mettre à leur place. Et ça, c'est un truc que j'ai compris et je l'ai absorbé d'une manière inconsciente de mon papa. J'ai même pas l'impression qu'il m'avait dit ça. Ou peut-être, des fois, je l'ai téléphoné en disant « Ouais, j'ai un petit problème là, j'ai un rendez-vous, mais ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire ?» Et à chaque fois, il dit « Premièrement, enlève l'émotion du processus. » Ça, c'est l'erreur, je crois, pour plein de gens que je vois qui ont du talent, qui font le travail, et ont tout, sauf qu'ils n'arrivent pas à séparer les émotions quand ils font des interactions avec des gens dont ils ont besoin pour faire leur projet.
Les sages enseignements de EPMD,
ouais.
Business is never personal. C'est ça, en fait, qu'il faut.
Ouais, tu l'as résumé bien. C'est plus succinct. Et je te remercie, Phil, pour avoir
Phil.
Résumé mon truc de 5 minutes en 3 mots.
C'est... Parce qu'on comprend ta philosophie et comment, finalement, j'ai l'impression que tu as réussi à naviguer avec le temps, avec l'apprentissage, mais aussi ton background, ton éducation, etc., à t'en sortir. Après, il y a quand même des spécificités dans la musique. Je prends un exemple. Gérer ses droits, c'est pas évident, surtout quand on multiplie les collaborations comme tu l'as fait.
comprendre tous les intermédiaires, que dans différents pays, il y a différents organismes de collecte. Il y a un truc hyper complexe où même les professionnels eux-mêmes parfois sont perdus. On le voit régulièrement dans cette émission. Et bah, on arrive à parfois se former, lire, machin, etc. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Sinon, on capte rien. On fait confiance à des gens. Sauf que quand on a envie d'être très autonome, comme tu as voulu l'être, tu es obligé de comprendre, toi, comment ça fonctionne.
Un minimum, les grandes lignes. Mais heureusement, j'avais cette manageuse, SO, Melinda Cody, qui a 25 ans. Elle a fait ça d'une manière très granulaire. Elle avait une formation en plus de business affairs en musique. J'avais vraiment la chance d'avoir cette personne à mes côtés pendant un quart de siècle. Et bien sûr, j'ai appris les bases. Et maintenant, un minimum de qu'est-ce que c'est la différence entre l'édition, la composition, où est-ce que d'où vient l'argent et tous ces trucs-là. Bien sûr, j'ai un minimum de conscience, mais je dirais tout ce que j'ai appris de mon père, c'est plus la gestion humaine de l'interaction avec les gens et comment. Un truc que j'ai appris, par exemple, c'est quand t'es désespéré pour que quelque chose marche, ça se sent. Tu peux pas faire semblant que t'es prêt à walk away parce que ça se sent. Si t'es vraiment prêt à walk away, t'as tout le pouvoir du monde. Mais si t'es pas prêt à walk away et t'es un peu désespéré, ça sert à rien de le cacher. Assume. Je suis désespéré. Je veux que ce truc se filme. J'ai vraiment besoin de ça. Qu'est-ce que je peux offrir en échange pour que ce truc se fait? Après, il y a des autres situations où je dis, OK, je vais bosser avec telle personne. Après, ils vont faire une proposition, je sais pas, de pourcentage, de droits. Et moi, je dis, mais non, je préfère que ça se fait pas. Si c'est comme ça, je me sens pas respecté. Et ils savent. Quand je suis prêt à walk away, ils le savent. Et je vais sûrement gagner plus. Après, si c'est moi qui va le faire, même si je suis presque pas payé, ils le sentent aussi. Parce que les rapports de force sont souvent assez évidents. Et on peut pas faire semblant. Des fois, je vois des artistes qui se disent « Oui, j'ai une proposition de contrat. Après, ils m'ont proposé ça. Mais je sais pas, c'est pas respectueux, non ?» Et je dis « Ben, est-ce que t'as le choix ? C'est le seul label qui t'offre un truc depuis 5 ans, mec. Je sais que tu vas le prendre. Donc vas-y, don't fuck it up, man. Et take the shitty deal. Et 3 ans plus tard, tu vas te sortir de ce shitty deal et tu peux faire mieux. » Mais tu ne peux pas toujours te mettre dans une position de « I want my respect !» Parce que des fois, tu es désespéré. Et donc, tu es dans le rôle du soumissif. Tu n'es pas le dom, tu es le sub. Et si je suis le sub, et j'en suis toujours, souvent le sub parce que j'ai vraiment envie qu'un truc se fait, j'assume être le sub. Et quand je suis le dom, parce que c'est tout moi qui va décider la chose, je l'assume aussi. Il faut savoir où on est dans le rapport de pouvoir et pas tomber dans des trucs de comme mon papa va dire, de l'émotion. Parce que quand tu dis « I want my respect !» et tu le dis comme ça, tu es dans un truc d'émotion.
Non, par contre, c'est très juste ce que tu viens de dire, à savoir que la musique, comme dans plein de domaines de la société, c'est des rapports de force avec des dominés, des dominants, des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres. Parfois, tu as besoin de l'un, parfois de l'autre. Machin, ça. Bon. C'est vrai, ça se passe comme ça. Et au-delà de se dire, bon, bah, à un moment, il faut s'y faire, il y a aussi la question, par exemple, de la justice, de l'éthique, etc. Est-ce que toi, il y a des moments où tu te dis, cette industrie me met mal à l'aise, voire où tu parles avec d'autres artistes, où tu dis, les gars, faut qu'on en discute, faut qu'on trouve des solutions, faut qu'on. Alors, je dis pas de monter un syndicat ou je ne sais quoi, mais tu vois ce truc de se dire, attends, ce business.
Non, à l'interne, oui. Ma société, les gens, les prestataires, les gens qui mixent mes morceaux, tu vois, on fait un effort pour être un minimum de compassionate capitalists. Mais moi, j'adore le jeu. I love the game. Et je peux pas souhaiter que ce soit autrement parce que s'il y avait une solution, on le saurait déjà. Malheureusement, personne sait. Et c'est ce qu'il dit Mark Fisher. Le capitalisme, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'on peut pas imaginer une alternative. C'est ça le pire truc du capitalisme, c'est qu'on peut même pas imaginer une autre façon de faire. Tant que c'est comme ça, moi je dis, you gotta play the game like it's dealt.
Mais écoute, je crois qu'on peut
s'arrêter là. Ouais. Bon, je prends des notes.
Mais oui, on va peut-être demander à Francis de nous rejoindre, on fait les recos et puis on se quittera.
Allez,
alors on fait comme ça. Bon, on est de retour.
Eh oui.
Francis Salvatore nous a rejoint à nouveau.
Salut.
Heureux.
Back again.
Pour les recommandations, c'est la tradition dans cette
tradition,
émission.
Évidemment.
C'est cool ça.
Absolument, ouais. Est-ce que vous avez déjà une idée, un morceau, soit un de vos classiques, soit un truc que vous avez écouté récemment, vous le mettez en boucle. Ce que vous voulez faire découvrir à nos auditeurs.
Ben pour moi, c'est un album qui s'appelle Plantasia.
Ah.
Plantasia, comme Fantasia, mais avec les plantes. Et c'est fait par un Canadien, d'ailleurs, qui s'appelle Mort Garson, et qui a fait cet album en se disant, je vais faire la musique pour faire pousser les plantes plus vite, pour être agréable et utile pour les plantes. Donc, à la fois, ça rejoint mon truc de musique utile. Et à la fois, il y a une folie absolue en se disant que ça va faire pousser les plantes. Voilà, donc j'aime bien ce truc. C'est bien un projet What If, comme j'aime bien. What If la musique pourrait plaire tellement aux plantes qui vont pousser. Donc, on peut jouer n'importe quel titre, mais il y a un morceau qui s'appelle... Tu l'as devant toi?
Ouais, alors il y a plein de Tasia.
Dance of the Spider Flower, un truc comme ça.
Symphony for a Spider Plant.
Ouais, je dirais, je fais la reco. Mais c'est vraiment un reco sur tout l'album, mais on va jouer un extrait là.
Allez, c'est parti. Est-ce que les fausses plantes poussent? Alors là, il serait vraiment fort, Mort Garson, comme ça.
Sûrement avec le IA, on peut faire semblant.
Ouais.
Est-ce que tu retrouves un peu la période 16 bits
Ah bah là, on est dedans, c'est de la musique de jeux vidéo. Là, j'étais sur Super NES. Là.
Ouais.
Ouais. Merci beaucoup, Chili, pour cette roco. Francis.
Bah, c'est trop difficile. Un morceau.
Choisir, c'est renoncer.
Ouais. D'accord, ah oui.
Ah, c'est beau ça.
Bah alors, c'est peut-être parce que, en fait, j'adore. Il y a les lyrics qui reviennent toujours comme ça en tête. C'est Scooby-Doo Papa.
Qu'est-ce que c'est?
Scooby-Doo Papa de DJ Kass. C'est okay. K-A-S-S. C'est un gars dominicain à la base qui habite aux États-Unis. C'est un tube des années 2018.
Ok, c'est parti. Pasa la juca, si no la voy a dar con esa. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y la cosa suena ra. Bars. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá. Y el pum, pum, pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. Y la cosa suena ra, 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 ra. Scooby-Doo, papá. Y el pum 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 pum. Tú quieres juca, pásamelo 20. Tú quieres juca, pásamelo 20. Tú quieres juca, pásamelo 20. Si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres juca, pásamelo 20. Tú quieres juca, pásamelo 20. Tú quieres juca. Alors ça, j'imagine qu'en soirée, ça met le feu.
C'est ça.
En fait, c'est une reprise de Man's Not Hot.
J'en ai aucune idée.
Tu sais, c'est un comique anglais
okay.
qui se fait passer pour un rappeur qui s'appelle Big Shaq et qui est okay. toujours avec sa doudoune. Et qu'on lui dit d'enlever sa doudoune et il dit non, Man's Not Hot. Et il fait ce truc-là.
C'est ça.
Okay. Ouais, c'est lui. C'était 2017 et en fait, je pense que...
Et c'est peut-être, il a fait une reprise.
Ouais, il l'a repris dans le...
Et on apprend ici.
Ouais, c'est ça aussi, la transmission.
Daz, d'ailleurs.
Ouais. Yes.
Taroko.
Lawrence Hilton Jacobs.
Ok.
Un morceau qui s'appelle Larry's Theme.
Est-ce qu'on est sur genre une BO, un truc comme ça, le Larry Theme, ou pas du tout?
Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Je crois pas que ce soit une BO, mais c'est un morceau qui a été utilisé par, évidemment, un beatmaker dans mes favoris, Night Fonder, qui a produit Jean Grey, une rappeuse d'origine sud-africaine. Et le morceau est très bien, en fait. Et j'écoute plus le morceau original maintenant que le morceau samplé, mais...
J'arrive pas à le trouver sur...
Oui, car il n'est pas sur Spotify.
Il est pas sur Spotify.
Oui, tout à fait.
Et bah écoute, on va aller le choper sur...
C'est marrant que vous ayez...
Scooby-Doo, papa.
Ah ouais, en vrai. Vous pouvez refaire le... Vas-y, Chili au synthé. Toi, tu fais, tu fais la drums avec la...
Je vais avoir une dent qui me tombe, là, comme ça.
Et on fait Scooby-Doo, papa. On y est, on y est. Tu fais le Scooby-Doo, papa, là.
Scooby-Doo, papa!
Voilà, voilà, je laisse le faire.
Il faut le bon timing.
Bon, on a trouvé sur YouTube Lawrence Hilton Jacobs.
Tout à fait.
Larry's Theme.
Larry's Theme.
C'est parti. Non, c'est pas la bonne version. Je peux trouver autre chose.
Si, c'est ça.
C'est ça.
Chaque cycle, il rajoute un truc et à la fin, c'est le bordel.
C'est trop bien, c'est les années 70.
70, ça... ouais, ça doit être 77 ou 60, entre 75 et 77.
Il doit être un sacré personnage, Larry, hein, pour avoir ce thème-là.
C'est clair.
C'est sexy quand même aussi. Ouais.
Ah bah nous, on aime bien la musique, la musique de Filth.
Non, c'était hyper bien.
C'est très très chouette, ouais. Alors toi, Salman,
Je pense que... J'ai une reco que j'ai depuis longtemps de côté, et en fait, ce qui m'y fait penser, c'est que dans l'épisode 1 de Zilch, avec Daniel, Gonzo, tu avoues tes lacunes en termes de musique du Maghreb, de musique d'ailleurs hors Occident de manière générale, j'ai l'impression. Et donc je me suis dit, j'avais regardé cette excellente série documentaire sur Arte qui s'appelle « Rai is not dead ». Et que je vous encourage vraiment à regarder. Et donc il parle de plein de personnages importants du rail.
Qui a dit qu'il était dead, déjà, etc. On n'a jamais dit qu'il était dead, le rail.
Non, mais parce que c'est vrai qu'après, notamment, tu sais, on a connu en France une vague de rail, tu sais, qui a été très exposée, etc.
Jusqu'au
11 septembre.
Globalement,
ça a fait un peu de mal aux Arabes, c'est vrai.
C'était plus la mode.
Bon, toujours est-il qu'il y a une légende du rail algérien qui s'appelle Cheb Hasni, qui, malheureusement, en plus, a été mort assassiné pendant la décennie noire en Algérie, et qui est resté... C'est peut-être le plus grand. C'est vrai qu'à l'international, celui qui a le plus rayonné, c'est Khaled, Cheb Khaled. Mais dans le cœur des Algériens, je pense que Cheb Hasni est extrêmement important. Et donc, il a un morceau, Sabart Ultal Adabi, qu'on peut s'écouter et que je trouve excellent, avec ses synthés un peu cheap, mais qui font tout le charme du truc.
Ah, ça part comme... Ouais.
Édition Santana, Badi Cheb Hasni. Aïe, Khatan Bey.
stylé. Hein.
C'est pas mal. Hein.
Ouais. Chaud.
Mais même la partie instrumentale au début, ouais, là,
ça tue.
Mais le chanteur, il joue le clavier aussi
Ça, je serais pas capable de dire. Je suis pas certain. Je sais pas.
J'aime bien comment ça alterne les voix.
Ouais.
Et après, il y a le clavier, le synthé qui rentre et qui reprend l'émotion.
Ouais, complètement.
D'une manière sans mots, c'est
non, franchement,
très agréable. C'est très
Puis il y a un côté, justement, un peu synthèse FM tu sais, à l'ancienne. Là.
Ouais, c'est Lofi.
Ouais, genre Mega Drive. Là, c'est Street of Rage. Le début du truc, t'es dans le premier niveau de Street of Rage. Tu vois,
c'est hot.
Et surtout, oui, il y a une charge. Il était connu pour ça, le rail sentimental, etc. C'était pas le plus. Parce que le rail a été connu aussi pour la provocation. C'était pour les jeunes une manière aussi de se libérer, etc. Lui était un peu plus consensuel, mais parlait aussi de l'amour, etc. Et toucher le cœur des gens, quoi. Et je trouve que ça ressort dans sa musique, dans ce morceau en particulier. Ouais. Daz,
l'amour.
Il nous reste l'amour.
Il nous reste que
ça. On termine là-dessus, l'amour.
Eh oui, l'amour. L'amour.
Chili Gonzalez, merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci beaucoup.
Merci pour
cool.
l'accueil.
C'était
trop content cool. d'être là, enfin, en tant que fan du podcast, de passer ici. Et les plantes, ils ont poussé. Hein.
Bon, je les vois, avant, je les voyais pas. Donc là. On rappelle Francis, merci aussi.
Bah oui, Francis Salvatore.
Bravo
pour
Zilch. Voilà.
On rappelle que Zilch est disponible.
Oui, absolument.
Les trois premiers épisodes donc, sont disponibles au moment où ce podcast sort.
Puis si vous regardez plus tard, il y en a certainement de nouveaux, 6 au total sur la chaîne de Grunt.
Et un projet aussi, peut-être, pour sortir ces morceaux de manière.
Bon, on peut le dire,
musicale.
Ben oui, on va sortir un vinyle en avril ou mai. Suivant les délais, mais on va expérimenter avec un format où on sort que sur vinyle et pas sur les plateformes, et on verra ce que ça donne.
Moi, je prédis que ça va être rapidement sold out, hein, évidemment.
Et tous les vinyles.
En tout cas, j'encourage parce qu'il y a quelques morceaux qui tuent vraiment. Ouais. Je pense à celui, on n'a pas spoil encore, on le fait. Il y a Kukra, donc un épisode avec Kukra dont on a parlé dans l'épisode.
Ouais.
Et le morceau avec Kukra, il est chaud.
Très très
il
fort.
Il est vraiment chaud.
Ouais. Ouais. Chaud, aussi chaud que Kukra avec sa doudoune et sa
cave. Le pauvre, il devait transpirer ce truc et tout. Avec toutes les lumières.
C'est fou ça, franchement.
Bon, un grand merci évidemment à la team Bouclette pour l'installation. Flav qui a quand même géré une grosse partie tout seul. Hein.
Ouais. Solo Flav avec Sam aussi à un moment donné, mais Flav quand même, merci.
Bravo, merci à François Milf.
François,
il a des goûts de Milf.
Ouais,
en tout cas,
hein. Ou alors, François, I'd like to fuck aussi, Filf. Bref, I'd like to François. En tout cas, François, après.
Il n'est pas là pour se défendre.
Non. Ah oui, non, mais il va avoir le temps. D'accord. Il va avoir plus de 2h30 pour se défendre.
Et en plus, t'as parlé de Plantasia, t'as parlé de Mark Fishman, etc. Bon,
ouais, je pense qu'il va être content. Mais c'est vrai que c'est une émission. Merci, François, c'est long.
Ah, c'est un fan de Mark Fisher.
Fisher, pardon, Fishman. Oui, oui, absolument. J'aime beaucoup Mark Fisher.
Évidemment. Senpai.
Merci à Thoman.
Thoman. Thoman. Dankeschön. Ah oui, voilà, on peut le dire pour deux.
C'est une boîte allemande, hein.
Eh oui.
Thoman. Bon. Ça, non yeah.
Ça vous est déjà arrivé d'acheter chez Thoman, Chili Gonzalez? T'as déjà acheté chez Thoman?
Oui.
Pas sûr.
Natürlich, ja. Yeah.
Voilà.
Bah oui.
Ah, moi, j'aime bien les petits magasins de famille, d'instruments
bon,
de musique.
On retire toute l'émission.
Alors, tu sais que c'est une histoire familiale, Thoman. C'est Monsieur Thoman qui est de la montée.
Alors, après, ils ont racheté la moitié.
Maintenant, c'est la moitié
de la Roure, mais ok. Non, à la base, c'est la famille.
Oui, c'est vrai que c'est une grosse société aujourd'hui.
Oui, on peut dire ça, je pense.
Oui. Mais ils ont bon goût puisqu'ils permettent à ce podcast de vivre. Et on les remercie.
On est trop bien chez vous.
Merci beaucoup. Merci. Et puis, merci évidemment à vous, chers auditeurs, chers viewers sur YouTube. N'hésitez pas, si vous êtes là, si vous avez kiffé à la fin de l'émission comme ça.
Mais oui. Un petit commentaire constructif.
Oui. Oui, idéalement, mais non, mais juste un.
Même un commentaire pas constructif,
un emoji. Peu importe. Un like, un pouce.
Allez.
Une étoile sur les plateformes de podcast audio.
Un petit gif de Ben Affleck qui fume.
Voilà.
Ce que vous voulez, après tout. Mais du soutien, ça nous fera plaisir. Ça aide tout le monde. Et puis pour qu'on continue, et d'ailleurs en parlant de continuer, Daz, dans 15 jours.
Ah, encore ?
Un nouvel épisode.
Ok.
Nouvel invité, nouveau sujet.
Chaud, comme d'hab.
On se retrouve dans 15 jours. Ciao.
Ciao.